Le Rendez-vous Tech est une émission financée par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces ou des sponsors commerciaux. Aujourd'hui, nous remercions les invraisemblables Guillaume Brumagne, Dominique Le Chaudel, Jean-Michel Pascal, Jeff Castel, Laurent Bélanger, Oncle Ben 31, pas 32 ou 30, hein, 31, Théo et Bruno Martin, et tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume en 1h30 environ l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir, comme tous les deux épisodes, de recevoir Jeff Clavier en direct de la Silicon Valley. Comment vas-tu, monsieur Clavier ?
Et je suis Jeff. Salut tout le monde. J'adorais la façon dont tu te présentais au début. Oui, bonjour, je suis Patrick, je suis Nat, je suis...
C'est ça, oui, ça, où, ça, ça remonte, ça.
Ça nous rajeunit pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, depuis la vallée, où de nouveau il commence à faire beau et chaud, parce que c'est le moment de l'année où on apprécie vraiment le temps ici à San Francisco.
Bah écoute, il fait pas mal ici à Paris aussi, donc on en profite également, c'est le printemps avant le printemps. On va pas s'en plaindre. Et du coup, j'ai également un immense plaisir en plus aujourd'hui, c'est de réaccueillir dans l'émission l'ami Ben Kurdi, qui nous rejoint après de longs mois d'absence. Comment ça va, Ben ?
Ça va très très bien, hyper content d'être là, vraiment je me réjouis de faire cette émission.
Écoute, je suis d'autant plus heureux de t'avoir que tu as été réclamé par certains auditeurs qui m'ont dit « Oh, il est où Ben ?» Alors, il y avait Mike aussi, mais bon, là, Mike est pas là. Déjà, on a Ben. Et en plus, toi, tu as complètement changé de domaine. Tu nous disais que, avant de commencer l'émission, que maintenant, tu fais de... Alors, comment on dit ? Automation ou automatisation ? Je sais pas quel est le terme français, mais tu t'occupes de trucs qui se conduisent sans... de choses qui naviguent sans intervention humaine, c'est ça ? Ben ? Ah, et Ben navigue lui aussi sans intervention humaine, visiblement.
Il était tellement content de nous rejoindre que ça fait exploser son Skype.
Écoute, je sais pas ce qui se passe. Visiblement, il a été déconnecté et ça fait 2-3 fois qu'il a été déconnecté. Donc, on va lui demander s'il peut remettre à jour son Skype et on revient. Et donc, Ben a mis à jour Skype et il est revenu. On espère que ça va fonctionner, à moins que ça ne soit les organismes gouvernementaux avec lesquels tu travailles pour je sais pas pourquoi il t'empêcherait d'être dans le rendez-vous tech. Je vois pas. J'allais lancer un truc. Mais donc, on dit automation ou automatisation. Tu travailles avec plein de gens. C'est hyper intéressant, du coup. Qu'est-ce que tu fais?
Alors, c'est vrai que c'est absolument passionnant de travailler avec des organismes comme la NASA, comme César en Europe, pour ceux qui connaissent, enfin, dans le milieu de l'aviation, de l'espace, de l'aérien, etc. Donc, on travaille entre le côté réglementation, donc d'avoir savoir comment on veut faire au niveau politique, social, et puis l'implémentation au niveau vraiment technique. Et au milieu, faut trouver des standards, faut trouver des protocoles, faut mettre d'accord tout le monde, il faut faire les choses. Et voilà, c'est ce que je fais. Je suis au milieu de tout ça, donc j'ai un plaisir monstre. C'est une vue 360 sur un gros morceau du futur. Donc voilà. Et je peux vous dire qu'il y aura pas mal de drones quand on voit chaque fois qu'on a une toute petite amélioration au niveau de la réglementation, au niveau technique, on voit des centaines d'idées. Et c'est toujours la même chose. Hein. Dès qu'on offre une plateforme à des personnes, on ne peut pas, nous, envisager le futur. Il y a trop de créativité. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis toujours optimiste par rapport au futur de l'humanité.
Quelle vision enthousiaste, ça fait plaisir. Hein. Ça change et ça fait plaisir. Mais écoute, il faudra peut-être que tu reviennes nous en parler un jour dans l'émission. Ça sera peut-être un sujet à aborder. Mais pour le moment, on va...
Non, mais attends, c'est vachement plus intéressant que... Ok, never mind.
Pour le moment, on va parler de la grosse annonce de ces derniers jours, c'est-à-dire le Samsung Galaxy S8. qui a été présenté avec force marketing il y a quelques jours de ça, et quelques fonctionnalités plutôt intéressantes. On va aussi parler rapidement des rumeurs persistantes sur l'iPhone 8, parce que c'est un petit peu le combat qui s'annonce cette année, et ça fait un moment qu'on n'en a pas trop parlé, donc il y a quelques petites infos supplémentaires à évoquer, et puis on aura Google Android O, Microsoft qui détaille, enfin qui annonce la date de sortie de Windows 10 Creators Update, le Neuralink de Elon Musk, qui est encore un projet complètement fou, etc., etc. Mais commençons donc tout de suite avec le Galaxy S8, que je vais vous détailler en un instant, et puis on va en discuter. Alors, d'abord, peut-être évacuons les trucs qui sont relativement classiques, hein, les caractéristiques techniques qui ne surprennent pas trop. Il y a une caméra, un appareil photo 12 mégapixels au dos, c'est comme le S7, donc il y a du meilleur logiciel dedans, mais au niveau matériel c'est la même chose. Meilleur appareil photo devant, un 8 mégapixels avec en plus autofocus, etc. Processeur de 10 nanomètres, un Snapdragon 835, le tout dernier aux US et en Asie, un Exynos pour l'Europe. Alors c'est je me suis renseigné, hein, c'est à peu près la même chose. Exynos c'est fait par Samsung, Snapdragon bien sûr c'est le classique. Mais c'est à peu près la même chose. Il y a plusieurs moyens de gérer la sécurité. Empreinte digitale au dos, cette fois-ci, et on va voir pourquoi dans un instant, à cause de la taille de l'écran. Il y a une reconnaissance de visage qui est pas hyper sécurisée, mais qui est pratique. Une reconnaissance d'iris qui est là beaucoup plus sécurisée, comme sur le Note 7, qui a bien sûr été évoqué à de nombreuses reprises dans les reviews, dans les impressions du S8. On peut aussi faire par mot de passe ou par signe, etc. Chargement sans fil comme d'habitude. Ils ont mis un gros accent sur la sûreté de l'appareil, justement pour essayer de contrer l'image persistante du Note 7, mine de rien, qui planait un petit peu sur la keynote. Mais bon, quand même moins que je ne l'aurais pensé. Ils ont dit voilà, c'est très important pour nous. D'ailleurs, ils n'ont pas une batterie plus grosse qu'avant. Ils ont joué la sécurité, on va dire, à ce niveau-là. Et je vais parler dans un instant des deux grosses fonctionnalités à mon sens, et peut-être même une troisième qui font l'appareil. Donc les deux grosses, c'est l'écran bien sûr et l'assistant Bixby sur lequel ils ont beaucoup parlé. Mais alors avant ça, sur les éléments plus classiques, vos impressions, tout ce qui est empreinte digitale au dos, scanner d'iris, appareil photo. Bon, c'est un petit peu, on est dans le standard là, j'ai l'impression, non? Jeff, tiens.
Ouais, bah, la grosse question, c'est ce qu'ils ont trouvé dans leur système de design et d'assurance qualité, les problèmes de batterie, parce que en gros, le S8 est en fait super intéressant. Il y a plein de fonctionnalités qui font que je foutrai à la poubelle mon S6 qui a 1h de l'après-midi alors que j'ai rien fait avec mon téléphone et déjà à 33% de batterie. Mais la question, c'est ce qu'ils ont vraiment réglé le problème, parce qu'ils ont atteint un niveau de miniaturisation en gros des composants, et ils essaient de cramer tellement de trucs dans le téléphone qu'en gros ils ont pris des risques sur le design en termes d'isolation de la batterie, et a priori au niveau de leur assurance qualité ils l'avaient pas chopé. Donc est-ce qu'ils ont vraiment fait ce qu'il faut pour que le S8 ce soit pas un risque, parce que je suis sûr que
toi tu penses que cette image reste un petit peu
pas qu'un petit peu, je veux dire quand tu penses que chacun des vols que tu vas prendre aux États-Unis te rappelle que si jamais tu
encore
as
maintenant il le rappelle
un téléphone Samsung S7 tu dois pas l'allumer, etc. je veux dire
c'est le Note 7,
sais pas si
hein. C'est le Note 7,
le Note 7. Le Note 7, oui. Tu dois pas allumer. Je veux dire, je sais pas comment tu récupères de ça en tant que marque, quoi.
Mmh. Bah écoute, je donne la parole à Benoît du coup sur les fonctionnalités, enfin les caractéristiques un petit peu standard du truc. Toi, c'est quoi ton impression?
Bon, on voit qu'ils cochent toutes les cases hein, du téléphone futuriste, donc ils présentent bien. Moi, je regarde beaucoup pour comprendre ce genre de choses, les vidéos sur YouTube, voir un petit peu comment les gens en parlent, ça m'intéresse moins la keynote que ce qu'en disent les utilisateurs qui arrivent à l'avoir en premier. Et franchement, c'est vrai qu'il y a une excitation que j'ai pas vue depuis longtemps. Donc, ils ont fait quelque chose de juste au niveau du design, en tout cas l'extérieur. Quand bien même, il n'est pas tout à fait nouveau. Hein, le fait qu'il n'y ait pas de bord, on l'avait déjà dans les versions précédentes. Mais là, d'un coup, paf, ça a capté l'imagination. Donc, à mon avis, je ne connais personne pour qui c'est un vrai problème, cette histoire de batterie. Enfin, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire c'est un souci. Donc,
moi, je suis un petit peu... Pardon. Ouais. Moi, je suis un petit peu sur la même ligne que toi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jeff. Je trouve que cette image de téléphone qui explose du Note 7, même si j'étais très, très dur au moment où c'est arrivé, justement, elle a été un petit peu éclipsée par cette volonté de Samsung de continuer à aller de l'avant. Et c'est vraiment le bulldozer qui continue à avancer quoi qu'il arrive. Et du coup, je trouve qu'ils ont hyper bien géré cette crise. Et aujourd'hui, ce qui ressort, bon, au-delà de ces petites questions, bon, l'iris, c'est sympa... le quoi d'autre, le processeur, il est plus puissant, machin, c'est très bien. On a le gros truc qui frappe, et justement on y vient, c'est ce que tu évoquais, c'est le design avec cet écran qui franchement est magnifique. Au-delà du fait que ça soit un bel écran en lui-même, le fait qu'il aille de bord à bord, c'est pas nouveau, parce qu'on l'avait déjà avec le Edge, mais la manière dont ils en parlent, en fait, c'est marrant comme parfois en faire un petit peu moins, ça rajoute de la force de proposition, parce que là, ils ne mettent pas l'accent sur « oui, on a une interface qui permet sur les côtés de toucher ceci et de faire cela », on s'en fout. C'est juste au niveau du design, l'écran mange entièrement la face du... Alors, pas entièrement, mais à 90% la face de l'appareil. On a une toute petite barre en bas, une toute petite barre en haut. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont bougé le capteur d'empreinte digitale à l'arrière, parce qu'il n'y avait plus la place et ils ne pouvaient pas encore, je pense qu'il n'y a pas la technologie, de le mettre sous l'écran. Ça va arriver. Mais l'écran, donc, il fait... C'est 2960 par 1440. Sur les deux modèles, d'ailleurs, il y a un modèle 5,8 pouces, un modèle 6,2 pouces. Il est en HDR, donc il y a des boutons virtuels en bas de l'écran, etc. Il a ensuite 4 gigas de RAM, il est étanche, il a le Bluetooth 5.0 et un jack audio d'ailleurs, ce que n'ont pas manqué de rappeler beaucoup de gens. Mais cet écran, franchement, on arrive petit à petit jusqu'au fantasme de du téléphone qui n'est qu'écran. Et moi, je trouve que ça éclipse complètement tous les autres problèmes dont on peut parler. Et puis en plus, c'est un super bel appareil. Moi, ça fait longtemps, depuis, je dirais, certains iPhones, ça fait longtemps, qui aujourd'hui ont l'air vieux, bien sûr, mais ça fait longtemps que je me suis pas dit, waouh, là, il y a un design qui frappe, quoi. Non, ça vous... Enfin, toi, Ben, t'avais l'air d'être d'accord, quoi.
Ouais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, c'est ça. Et puis, je me dis, c'est l'apogée de l'écran. Parce que si on imagine qu'effectivement, on va partir vers d'autres interfaces que l'écran, où le téléphone deviendra plus que la batterie, finalement, mais on aura toutes sortes de la réalité augmentée, etc. Je trouve ça intéressant. Donc, je pense qu'on est au bout de ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et puis, les critiques que je voyais, effectivement, c'est quelqu'un qui disait, ah, j'arrive pas à faire mon empreinte digitale en tenant
d'une
main.
Oui, elle est placée un petit peu bizarrement. Ouais. Pour la
Mais bon,
taille du truc. Ouais.
Si c'est ça les critiques, je pense que Samsung peut dormir tranquille. Quoi.
Ouais, c'est sûr. Donc toi, il t'a pas autant frappé l'écran, Jeff ? Ça t'a pas marqué ?
Si, non, il est effectivement super sympa, mais je suis pas d'accord avec vous sur la partie sécurité où en gros. Je peux te dire que celui-là, je vais pas me jeter pour être un des premiers à acheter le téléphone. On va déjà avoir quelques semaines, quelques mois pour voir s'il n'y a pas de problème. Parce que je suis pas convaincu du tout, connaissant Samsung un peu de l'intérieur pour avoir un peu travaillé avec eux par le passé, qu'ils aient vraiment eu une véritable réinvention du processus, que ce soit de design, que ce soit de qualité, pour éviter ces problèmes que l'on a connus. Et donc, j'ai pas envie de cramer mon siège ou la poche de mon jean avec un S8. Je pense que effectivement, il est tentant parce que le design de l'écran est vraiment génial. Les specs sont sympas. Ce que j'espère, c'est que la batterie va durer plus longtemps, parce que c'est franchement le problème numéro un que j'ai avec mon téléphone Samsung. C'est que, bon, j'ai un iPhone et un S7 que j'utilise en parallèle. Et franchement, si j'utilisais le Samsung en tant que téléphone principal, j'aurais besoin de le recharger aux alentours de midi ou midi et demi, quoi. Donc ça, c'est un énorme problème de batterie et de la consommation d'Android. Cela dit, ça vaut. Moi, ce qui m'intéresse en fait avec le S6 et avec le S8, c'est la partie réalité virtuelle avec le Gear VR. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais l'upgrader pour pouvoir jouer un peu avec, avec le soft Oculus pour voir comment avoir deux générations, puisque j'ai pas acheté le S7, comment ça va se passer, quoi.
D'accord. Justement, on va y venir à la réalité virtuelle dans un petit moment. Entre-temps, disons quand même un mot de leur assistant personnel, de leur assistant virtuel, Bixby, dont ils ont pas mal parlé. Ils l'avaient présenté un petit peu avant, là, ils l'ont présenté un petit peu plus. Ils ont montré quelques fonctionnalités, comme par exemple le fait qu'ils puissent, en mode caméra, analyser l'image et puis vous sortir des images de trucs similaires et éventuellement des boutiques qui pourraient vous vendre ce truc-là. Il y a d'autres promesses du genre ça va pouvoir reconnaître votre voix, reconnaître vos phrases sans que vous ayez besoin de dire précisément le mot en question ou l'ensemble de mots qu'il faut. Il va reconnaître le contexte, donc en fonction de quelle app vous utilisez, etc., etc. Le problème, c'est qu'il n'a pas été possible de le tester parce que les gens qui étaient sur place se sont vus dire qu'il ne serait disponible qu'au lancement de l'appareil, qui entre parenthèses sera le 21 avril, donc ça arrive très bientôt là. Mais bon, il y a peu de chances que ça marche pas comme ils le disent, puisque c'est un petit peu dans ce sens que vont tous les assistants virtuels. Sauf que là, ils le mettent vraiment en avant. Il y a un bouton dédié sur l'appareil, à côté des boutons de volume, pour lancer l'assistant virtuel. Donc voilà, ils le mettent vraiment en avant. On peut pas en dire beaucoup plus maintenant, puisqu'il n'était pas disponible au test avec les premières prises en main. Donc ça, on verra peut-être un petit peu plus tard.
Ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est de voir, alors oui, il travaille avec Google, mais c'est une belle attaque frontale hein, par rapport au Google Now, qui est quand même
le Google Assistant maintenant en plus, qui est encore plus mis en avant, le Google Assistant.
Bah, disons que ils veulent récupérer tout ce qui est contextuel. On sait que le rêve
le
Now de Google,
tab, tout ça, oui.
Voilà, c'est de finir ta phrase, mettre le produit devant tes yeux avant même que tu saches que tu veux le chercher, etc. Et là, clairement, on voit qu'on arrive dans cette phase où l'intégration du hardware et du software devient de plus en plus forte. Et je pense que là, on a vraiment une belle illustration. Donc, je trouve très intéressant, et probablement, moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans cette annonce par rapport à même à tout le reste et dont on va encore parler.
Ouais. Donc voilà pour l'assistant, effectivement. Oui, entre parenthèses, tu parlais de Google. Le Google Assistant est disponible aussi sur le téléphone. Donc ça veut dire que je sais plus comment on lance, mais genre on appuie deux fois sur le bouton Home ou appuie longtemps sur le bouton Home. Mais donc il y a les deux sur le téléphone. Donc ça fera un petit peu bizarre pour certaines personnes. Par contre, il y a bien sûr l'interface générale de revue par Samsung qui est franchement pas trop moche. Qui est assez bien foutu si vous appréciez les interfaces non d'origine pour Android. Et justement, à propos de Google, ils ont quand même beaucoup insisté sur le fait qu'ils travaillaient avec Google. Il y avait une partie pendant genre 2 minutes, c'était une lettre d'amour à Google. On a travaillé ensemble, on est en étroite collaboration, machin. C'était un petit peu pour dire, faire taire les conversations qui commençaient à devenir récurrentes il y a quelque temps sur le fait que Samsung voulait peut-être s'émanciper un peu de Google avec éventuellement l'un de leurs systèmes d'exploitation qu'ils poussaient de plus en plus. Là, on a l'impression que non, ils sont rapprochés de Google, ils travaillent avec Google, c'est Android et basta, quoi.
T'es
pas convaincu, toi?
Ouais, quand t'en fais trop, quand tu commences à dire « Mais non, je te jure, allez, non, c'était rien, c'était un hasard, attends, il n'y a que toi. » Ouais, on connaît ces histoires.
Bon, justement, ils ont aussi parlé de la réalité virtuelle avec justement une nouvelle version du Gear VR. Je crois que c'est une nouvelle version, si je ne m'abuse. En tout cas, il y a un Gear VR Controller, qui est donc une sorte de petite télécommande qui va permettre de s'affranchir justement de ce système de contrôle dans réalité virtuelle. Une fois que le téléphone est dans le casque, et ben forcément on a beaucoup moins de moyens de le contrôler, et là on aura une petite manette sans fil en plus, alors qui est, selon les premiers tests, pas extraordinaire par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres appareils plus chers, bien sûr, comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive, etc. Mais au moins, elle a le mérite d'être là parce que, encore une fois, avant qu'il n'y ait cette petite manette, eh ben, le seul moyen, c'était d'appuyer sur le bouton du truc qui était sur le casque, quoi. Donc, bon, il y en avait peut-être un ou deux, mais voilà. Et par contre, ça fait passer le prix du Gear VR avec le contrôleur au-dessus des 100 €, au-dessus des $100 en tout cas, ce qui, bon, psychologiquement, c'est un petit peu plus cher, mais je pense que c'est pas... vu que c'est une alternative au casque beaucoup beaucoup plus cher, je pense que ça reste quand même très abordable. Et puis ils ont une nouvelle caméra 360 qui est un petit peu plus facile d'utilisation. Ils en avaient beaucoup parlé pendant un moment. Il y avait une pub très très sympa. Je sais pas si vous l'avez vu, mais la pub avec l'autruche, vous l'avez vu ou pas? Ça a l'air bête comme ça de dire la pub avec l'autruche, mais elle était...
Non.
Non, vous l'avez pas vu. En fait, c'est une autruche qui va s'approcher d'une table de personnes qui étaient là, mais qui n'y sont plus. Et puis, il y a un Gear VR posé sur la table. Et l'autruche, par hasard, se met le Gear VR sur la tête. Et le Gear VR montre, en fait, le point de vue d'un oiseau qui vole. Et donc, l'autruche se met à se prendre au rêve de voler elle-même. Parce que, comme on le sait, les autruches ne volent pas. Et elle essaye une fois, elle se casse la gueule. Et puis après, c'est trop tard, elle a vu que c'était possible. Et donc, elle essaye encore un petit peu. Et finalement, l'autruche s'envole. Alors, c'est complètement débile à raconter comme ça. Mais je vous assure que c'est le genre de pub qui fonctionne pour moi. Ça m'a été... Enfin, c'était vraiment un petit peu émouvant, marrant. C'est aspirational, comme on dit en anglais.
Je suis pas sûr d'avoir vu la pub dont tu parles. Je sais pas si c'est ce qu'ils utilisent aux États-Unis.
Ah, peut-être pas. Enfin, elle était dans la présentation d'une heure et demie là que j'ai vu en entier, mais bon, elle était. Franchement, moi j'ai trouvé ça sympa. Cherchez-la si vous pouvez. Mais pour revenir à des choses plus concrètes, donc le Gear VR, toi tu l'attends donc avec l'appareil, peut-être le contrôleur, Jeff. C'est quoi ton impression sur un Gear VR avec un contrôleur? Qu'est-ce que t'attends? Tu disais que tu veux une machine un petit peu plus puissante, peut-être en deux générations. Tu l'utilises beaucoup, toi?
Non, j'avais acheté le S6 avec le Gear VR juste pour jouer un peu avec le l'App Store Oculus et avec les quelques programmes qu'il y avait à l'époque, et j'avais acheté en gros un joystick que tu pouvais connecter à ton téléphone de manière à pouvoir faire un peu plus de manipulation que essayer de sélectionner quelque chose avec la tête, appuyer, double cliquer, etc., qui était vraiment pas génial. Donc je pense qu'avoir un contrôleur, c'est bien. On voit que Oculus a fait énormément de travail sur leur contrôleur, donc le fait d'avoir un contrôleur de base, c'est pas mal, mais je pense qu'il y aura énormément de limitations par rapport au design que l'on voit sur le web, par rapport à ce qu'ils ont fait chez Oculus. Pour moi, c'est plus essayer de voir où un constructeur comme Samsung a amené le support de la réalité virtuelle dans leur téléphone, pour voir si on s'approche un petit peu plus, tu vois, d'un marché de masse. Parce que bon, acheter un HTC Vive ou un Oculus, ça reste quand même assez cher. Et donc l'idée d'avoir un truc qui vient gratos avec ton téléphone, je pense que c'est une approche assez intéressante.
Donc ça continue à te séduire, cette idée, toi, plus que d'avoir un gros truc qu'il faut connecter à l'ordi de toute façon. Et c'est vrai qu'ils en vendent pas mal, donc.
À l'ordi, où de toute façon tu es limité, tu dois avoir les câbles qui te connectent, et donc au niveau de l'interaction potentielle, l'idée de la réalité virtuelle, c'est que tu n'es pas de contraintes, et en gros la première chose que tu fais, c'est tu te connectes à un ordinateur. Donc pour moi, en tant qu'investisseur dans le domaine, et en fait on a annoncé notre investissement dans une boîte qui s'appelle Looking Glass, qui développe deux produits, un aspect, donc un écran volumétrique, donc c'est une espèce d'un écran 3D qui te permet de visualiser de la réalité virtuelle sans avoir besoin de lunettes. Et puis il y a
un hologramme, c'est ça?
Non,
d'accord, oui,
c'est développe aussi C'est un, en gros, c'est comme une télé 3D, c'est-à-dire que tu as, c'est comme si tu rajoutais une vingtaine d'écrans télé l'un derrière l'autre, et ça te donne une impression de profondeur. Et ils développent également un truc qui est l'hologramme, où aujourd'hui, en fait, ils savent te démontrer, bon, c'est pas Princess Leia, mais c'est quasiment l'équivalent, où tu vois un hologramme qui flotte dans l'air d'un volume 3D que tu as défini et avec lequel tu peux interagir.
D'accord. Bon, donc effectivement, une possibilité de conquête de marché encore avec le Gear VR qui continue à séduire forcément à 120 dollars, en l'occurrence 129 dollars, c'est un petit peu plus accessible que l'équivalent, enfin pas l'équivalent, mais que les Oculus Rift et HTC Vive, et qui continue effectivement à enthousiasmer certaines personnes. Une dernière chose, une dernière fonctionnalité dont j'ai pas énormément entendu parler moi dans les reviews et qui pourtant m'a paru hyper intéressante, c'est le dock DEX, D-E-X, qu'ils ont détaillé un petit peu en fin de conférence. J'aurais pensé qu'ils mettraient un petit peu plus l'accent dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu passer l'affaire, c'est un dock qui sur lequel en fait vous branchez le téléphone et vous pouvez brancher sur le dock un écran, un clavier, une souris, et ils ont développé une interface fenêtrée pour l'appareil, le Galaxy S8, hein, qui va en fait vous afficher un desktop comparable à Windows classique, et avec lequel vous allez pouvoir travailler avec des fenêtres. Et bien sûr, il faut que les apps soient compatibles. Alors, ils ont beaucoup travaillé avec Microsoft, justement, et il y a des apps Samsung compatibles, etc. Mais il n'empêche, pour moi, ça me semble pouvoir, dans certains cas, répondre à cette demande qu'ont beaucoup de gens d'utiliser le téléphone comme desktop dans certains cas, avec une équivalence 1-1 du travail qu'on fait dans une configuration et dans l'autre, et qui est même, à mon sens, d'après ce qu'on a vu, on n'en a pas vu beaucoup, mais enfin quand même, qui a l'air plus abouti que ce que propose Microsoft avec le Windows Phone, en ce sens qu'il y a vraiment des fenêtres et qu'on peut passer, on peut faire des copier-coller, machin, tous ces éléments de productivité qui sont essentiels quand on veut travailler, faire du travail un tout petit peu plus complexe que juste sur le téléphone. Et moi, ça m'a paru, d'après les peu d'éléments qu'on a vus, mais enfin quand même, ça m'a paru assez convaincant, au moins intriguant, et je vois pas beaucoup de gens qui en parlent, donc ça m'a un petit peu surpris. Alors on en parle depuis longtemps de ce type de possibilités, peut-être que les gens en sont fatigués, mais là ça m'avait l'air de fonctionner, quoi. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vraiment, ça m'a l'air de passer à l'as, quoi.
Non, alors les revues de nouveau que j'ai vues là-dessus fonctionnaient très bien. Et puis évidemment, qu'est-ce que les gens font? Ils essayent, ils font tourner YouTube et puis ils regardent un autre truc à côté. Et puis ça a l'air de passer pour des utilisations normales qu'on pourrait faire au quotidien, inclut la bureautique de base. Et effectivement, hein, c'est le genre de choses, on savait que ça allait arriver, c'est l'évidence du moment qu'on a la puissance dans le téléphone. Intéressant, le 23 mars, il y a eu l'annonce ou un brevet d'Apple qui a été visiblement publié, qui est exactement le même principe, donc où on pose son iPhone sur quelque chose qui ressemble à un MacBook, et on peut utiliser donc l'ordinateur tel quel. Donc vraiment son approche, et si l'iPhone ne propose pas quelque chose comme ça, je serais extrêmement surpris. Alors peut-être pas la prochaine itération, mais si c'est pas celle-là, c'est celle d'après, quoi.
Bah oui, c'est sûr que ce machin a l'air de fonctionner. Et tu disais, ils utilisent YouTube, ils font ceci. Bon, c'est effectivement le genre d'utilisation qu'on peut imaginer pour ce genre d'appareil. On va pas se mettre à lancer les jeux les plus fous de la Terre. Encore que, il y a beaucoup de jeux sur les téléphones mobiles et ils fonctionnent très bien sur des écrans d'ordinateur aussi. Mais oui, il faut adapter le clavier souris, machin, c'est sûr. Mais les gens vont aller sur Facebook, faire des documents Word, faire des documents Excel, regarder YouTube. Et voilà, c'est sûr que c'est ce genre d'utilisation qui sont préconisés. Donc, moi, ça me semble intriguant, en tout cas. Vraiment, vraiment intriguant. Et je suis surpris que les gens ne s'y intéressent pas plus, quoi. Et entre parenthèses, Microsoft va vendre une version Microsoft Edition des Galaxy S8 et S8 Plus. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire pour Windows Phone. Bon, je crois que c'est juste qu'il y a plein de départements chez Microsoft et qu'ils essayent d'être partout. Donc, c'est toujours la politique de Satya Nadella. Mais il n'empêche, ils vont avoir un S8 Microsoft Edition et à côté des téléphones Windows Phone. C'est bon, c'est un petit peu surprenant, on va dire. Même si au final, quand on y réfléchit un petit peu, c'est normal quand même. Mais bon, voilà.
On aura aussi Alexa sur iOS hein, qui débarque. Donc la Cortana sur Android, on voit que évidemment commence à se croiser. Hein.
Ouais, c'est sûr. Bon, pour conclure sur le Galaxy S8, moi franchement, j'ai été assez agréablement surpris. Je trouve que encore une fois, cet écran et cette absence de bord est absolument bluffante. Ensuite, c'est un bon téléphone haut de gamme, mais je trouve que Samsung a réussi à asseoir sa place de téléphone, c'est le téléphone haut de gamme sur Android. Voilà. Alors, il y en a d'autres qu'on peut préférer si on a telle ou telle fonctionnalité qu'on veut spécifiquement. Mais à mon sens, là, alors qu'ils ont eu une allée compliquée, ils ont le téléphone haut de gamme Android. Alors, il coûte $750, j'imagine, un petit peu plus en euros. Mais donc, on n'est même pas aux 1000 qu'on imagine pour certains téléphones à venir. Mais voilà, pour moi, c'est le téléphone haut de gamme Android. Je crois qu'il y a peu de concurrence à ce niveau-là. Alors encore une fois, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais si tu veux tel truc ou tel truc, il faut utiliser le HTC ou le Motorola ou le truc. » Mais bon, c'est des cas spécifiques. Pour le grand public, je crois que c'est haut de gamme égale, haut de gamme Android égale Samsung et basta, quoi. Avec celui-là, en plus, il tape tellement, ça va taper dans l'œil de nombreuses personnes, je crois. Votre conclusion sur l'appareil dans son ensemble, Ben ?
Ouais, alors sincèrement, je m'intéresse plus beaucoup au téléphone hardware, mais là, clairement, je pense que je vais être tenté quand il sortira, donc je vais regarder quand est-ce que ça sera la prochaine opportunité.
Mais tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi en tout cas, les téléphones, on le dit depuis des années, hein, c'est un petit peu plan-plan, des mises à jour régulières, mais pas ça nous fait pas tourner la tête, tu vois, c'est pas genre tu vois passer le truc et tu dis ah attends mais c'est quoi ça, et là ils ont réussi à faire ça, donc je pense que cet élément déjà est une réussite pour Samsung. Jeff, donc toi, t'es un petit peu moins enthousiaste, j'ai l'impression.
Non, c'est pas que je suis moins enthousiaste. Je pense que je vais pas me précipiter pour être un des premiers à avoir le truc pour s'assurer que la batterie fonctionne, parce que bon, tu te dis non, mais il y a pas de risque. Puis une fois qu'ils ont dit ouais, on a fixé le problème, ça s'est mis à cramer quand même, faut pas l'oublier. Donc, étant donné que j'ai pas besoin d'un deuxième téléphone, je vais attendre un petit peu, mais je pense que je vais racheter.
Tu vas remplacer ton S6, quoi.
Je vais remplacer mon S6 et mon Gear VR avec le S8 et le Gear VR qui va bien, de manière à tester un petit peu où ils en sont en termes de support de la réalité virtuelle sur ce téléphone, et puis voir un petit peu comment les différentes améliorations se concrétisent avec un espoir que la batterie va enfin durer plus longtemps, parce que tu vois là, il est 1h35. J'ai pas utilisé mon téléphone juste pour un SMS, et en gros je suis à 20% à 20% de
pour la journée, là, quoi. À ce point-là, oui, d'accord. Quand
même. Alors que mon iPhone, objectivement c'est un iPhone 7 Plus, il est à 93%.
Ah oui. Oui, d'accord, mais enfin bon, c'est pas comparable. Un 7 Plus qui date d'il y a 3 mois ou 6 mois.
Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pas comparable, mais enfin bon. Ouais. Si tu veux, je m'étais dit, allez. J'essaye de prendre le S6 ou le S8 comme téléphone principal pour une semaine, et j'ai pas l'iPhone, mais j'ai pas réussi.
Ouais, bon, ça c'est les préférences appeliennes de Monsieur Clavier.
Non, c'est juste l'habitude. Je sais pas si c'est les préférences, ça, ou juste l'habitude. Ça fait presque 10 ans qu'on a ce putain de truc dans nos mains, et donc t'as l'habitude.
C'est dur de faire switcher, c'est sûr. Ouais. Bah justement, tiens, parlons un tout petit peu d'iPhone quand même, parce que l'ombre de l'iPhone planait évidemment sur la conférence. Je dis l'ombre de l'iPhone, mais là pour le coup, ce qui est vraiment intéressant, j'ai l'impression que c'est l'une des premières fois qu'on a une série de fonctionnalités qui étaient en rumeur pour le prochain iPhone, donc qui sera présenté à l'automne, qui pour le coup sont presque toutes incluses dans le téléphone concurrent de Samsung. C'est un petit peu S8 contre S8 VS8. Vous voyez ce que j'ai fait? VS versus machin. Bon, bref. OK. c'est vraiment le S8 contre le 8 et la plupart des fonctionnalités, le Touch ID. Alors, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a le Touch ID qui serait à l'arrière parce que le Touch ID sous l'écran, c'est pas encore prêt. Alors, ça serait un iPhone 8 qui s'appelle iPhone 8 Edition. Il y aurait aussi, en plus de ça, un 7S et 7S Plus qui serait plus proche du S7. Et uniquement le 8 qui serait en très petite quantité, beaucoup plus cher, on parle de $1000, donc c'est vraiment un truc énorme. Et l'écran incurvé, un petit peu moins que celui du S8, mais clairement un écran incurvé qui va de bord à bord, en tout cas sur les côtés. Et là, on a exactement ces fonctionnalités avec, oui, j'ai oublié de dire, l'identification par l'iris, etc. Enfin, toutes les fonctionnalités et un assistant, une version de Siri qui serait améliorée, qui comprendrait le contexte, enfin, tout ce qu'on a déjà dans Google Assistant et là, Bixby, etc. Et donc, toutes ces fonctionnalités sont complètement préemptées par, encore une fois, même s'il y en avait dans différents téléphones, là, dans un package qui est le Galaxy S8, alors avec la différence importante, évidemment, qu'il y en a un qui est sous Android et l'autre qui est sous iOS, qui est la différence qui marque qui marque la différence, tout simplement, hein, c'est les préférences des gens, comme le disait Jeff. Mais au niveau du matériel, on a un S8 qui est arrivé et qui a dit « Ah ouais, toi, tu veux faire ça ? Bah moi, je l'ai déjà. Toi, tu veux faire ça aussi ? Je l'ai déjà. Tu veux ? Et j'ai déjà. » Donc, c'était assez impressionnant à voir déballé. Au-delà de ça, il y a une rumeur qui, là encore, est persistante. Et comme vous le savez, je parle pas toujours des rumeurs parce qu'on en a toutes les semaines une dizaine, donc j'essaye de faire la sélection. Mais là, on a vraiment une rumeur qui devient très persistante. C'est celle qui serait le facteur différenciant entre l'appareil d'Apple et les autres, c'est-à-dire la réalité augmentée, qui serait peut-être prête pour cette année, peut-être pour l'année prochaine, mais possiblement pour cette année avec cet iPhone 8 édition, et donc un travail d'Apple sur la réalité augmentée dont Tim Cook parlait, avait évoqué à plusieurs reprises en disant que c'était une vraie opportunité qui allait au-delà du téléphone, que c'était une plateforme. Donc, possible qu'on le voit arriver. Si c'est le cas, ça serait la chose que Apple et les fanboys d'Apple peuvent présenter en disant là il y a ça qui fonctionne et on serait peut-être dans une version qui est plus maîtrisée que ce qu'on a vu précédemment avec des trucs un petit peu maladroits uniquement avec le téléphone. Là on parlerait peut-être d'un appareil comme de lunettes, etc. Mais de manière moins maladroite encore une fois que ce qu'on avait vu avec les Google Glass pour lequel j'ai un amour qu'on connaît et qui va de la détestation à l'horripilation pour les Google Glass. Donc voilà, peut-être un pari à faire sur la réalité virtuelle pour Apple. Est-ce que ça vous parle ça ou pas du tout? Bon, encore une fois, je pose la question à Benoît.
Ouais, je pense que de toute manière, comme tu dis, ils ont quelque chose d'assez gros de prévu à mon avis, simplement parce que là, sinon ils vont passer inaperçus. Il y a quand même, ils ont l'air assez confiants. Moi, j'aime bien ces rapports. Je sais pas si on peut leur faire confiance ou pas, mais il semblerait qu'ils ont déjà précommandé 70 millions d'écrans OLED pour l'iPhone 8 à Samsung. Bon, c'est toujours la même chose. Hein. Samsung, ils sont toujours gagnants d'une façon ou d'une autre. Et quand même, il y a aussi ces petits signes qu'on commence à voir filtrés dans la presse, comme quoi ils se lancent sur des projets de réalité augmentée, etc. Donc, à mon avis, on va avoir une bonne surprise. Maintenant, comme d'habitude, on est de plus en plus précis hein, avec les, disons, de pouvoir définir ce que c'est le prochain iPhone. Donc, s'ils arrivent à nous surprendre, ben, bravo à eux. Parce que c'est quand même, ça n'a plus été le cas depuis pas mal de temps. Hein.
Bah là, je crois que oui, à part la réalité augmentée, je vois pas. Mais enfin, c'est la caractéristique de la surprise de ne pas la voir venir, mais quand même. Toi, Jeff, au-delà de ton intérêt donc pour la réalité virtuelle, est-ce que la réalité augmentée est un truc que tu vois peut-être dans ton quotidien dans la Silicon Valley ou que toi personnellement tu trouves intriguant?
Oui, complètement. C'est en gros, c'est l'étape intermédiaire entre la réalité, enfin ce que tu as en 2D aujourd'hui et la réalité virtuelle qui est complètement immersive, qui nécessite les goggles. Tu peux pas te trimballer, tu vois, dans la rue avec tes goggles parce que tu vas te planter la tronche. Un système avancé de réalité augmentée sur les téléphones Apple qui donne de fait instantanément un accès au marché global, c'est super excitant parce que derrière tu peux développer des applications où tu vois, on avait regardé dans les 2 ou 3 années passées des applications de réalité augmentée dans le médical où tu peux en gros montrer une plaie d'un patient et derrière tu peux interagir avec et quelqu'un peut te montrer comment faire une suture ou quelque chose comme ça. Tu as des applications dans...
Tu veux dire dans ton travail, dans les startups que tu as eues, etc.
Des startups dans lesquelles on aurait éventuellement investi. Et notre décision à l'époque, c'était de passer sur ces opportunités parce que c'était trop tôt. Il n'y avait pas encore le matos. Et donc, à l'époque, ils te vendaient un matériel soit sous forme de tablette, soit sous forme de lunettes qui était spécifique pour l'application parce que tu n'avais pas un vendeur de type Apple qui te met sur le marché un produit qui est vraiment de grand marché. Et de fait, si tu as le support aussi bien hardware que software qui vient d'un Apple, bon, évidemment, tu vas avoir la problématique de la batterie parce que typiquement, la réalité augmentée, ça bouffe énormément de ressources. Mais c'est quelque chose qui est super excitant en termes de potentiel parce que d'un seul coup, le marché n'est pas à 3 à 5 ans, le marché est disponible dès que le produit est disponible. Oui. Donc, si c'était la surprise pour les 10 ans d'Apple,
les 10 ans de l'iPhone,
de l'iPhone, pardon, ce serait une bonne surprise.
Ouais. Et c'est vrai que quand tu dis c'était trop tôt, les Google Glass, c'est quoi? C'est il y a 4 ans déjà, je crois. Peut-être 3-4 ans. Et c'est vrai qu'on sentait que derrière la promesse était intrigante. Mais c'est moi d'ailleurs ce qui m'avait hérissé au-delà du produit lui-même qui aurait pu être bien. Mais ce qui m'avait hérissé, c'est que c'était vraiment une sorte de futurologie. On disait ouais, ça va marcher comme ça. Et puis on n'avait pas de concret derrière. Et peut-être que c'était trop tôt à l'époque et qu'aujourd'hui, on pourrait arriver à un truc un petit peu plus cohérent avec les progrès de la technologie. Et ce que tu dis est vraiment intriguant, effectivement, parce que de la même manière que les téléphones, les smartphones ont permis l'arrivée de tout un nouveau type d'application, pas d'app, hein, mais d'application vraiment, et de possibilités pour les développeurs d'utiliser un nouveau matériel et d'avoir un nouveau type d'accès au grand public, c'est vrai qu'on peut imaginer la réalité augmentée comme elle aussi une plateforme qui une fois que les éléments sont mis en place, les éléments de connexion sont mis en place, c'est-à-dire le matériel, l'écosystème, l'App Store, etc. Et ben tout peut aller très vite. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Ben, avec les histoires d'automatisation, l'ingénuité des développeurs est sans limite quand tu leur donnes les outils. Et là, ça pourrait fonctionner. Là où des trucs comme les Google Glass, par leur forme et leur ambition qui était un petit peu trop avancée pour l'état des choses, ben on n'avait qu'un tout petit écran avec des tout petites interactions possibles, un petit peu comme une smartwatch par exemple. La raison pour la, enfin ouais. Bon, bref, on part pour.
Mais je pense que c'était super que Google et décidé de dépenser ils ont dépensé des dizaines de millions si ce n'est plus dans cette expérimentation parce que on a vu avec un bout de hardware donc qui était en avance sur son temps, ou trop en avance sur son temps, en termes de spec des lunettes, en termes de soft, parce que clairement, soft, ouais. Le gros problème que l'on avait, c'était une fois que tu avais enfin réussi à le faire marcher, c'est que tu pouvais quasiment rien faire avec, et donc c'était super frustrant. Mais surtout, ce qui était vachement intéressant, c'était que c'était trop en avance d'un point de vue sociétal aussi. C'est-à-dire que moi, je me rappellerai toujours, alors que je me travaillais dans San Francisco avec mes Google Glass, sans les utiliser, simplement en essayant d'essayer de trouver une solution pratique. Ou une utilisation pratique des lunettes, je traverse un passage piéton et il y a un mec qui était au téléphone qui me regarde, qui me pointe du doigt et qui dit glass hole, ce qui veut dire enculé, parce que tu portes des lunettes connectées. Et donc clairement le monde était pas prêt pour ça, alors que et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, t'as Pokémon Go qui se pointe. Et aujourd'hui, on n'entend plus vraiment parler parce que la rage a disparu comme d'habitude. Mais pendant 3 à 6 mois, tu voyais tous les mecs qui se trimballaient avec leur téléphone, avec une surimpression. Donc, c'était une certaine forme de réalité augmentée. Et tu vois que si tu as une application qui est vraiment intéressante, les gens vont même pas se poser la question. Ils vont l'adopter, ils vont l'utiliser.
Ouais.
Et donc, le fait que Apple amène une solution, je dirais standard. Faut voir un peu quelles sont les applications qu'ils vont mettre en place en même temps que le support hardware, mais c'est super intéressant.
Et à ce niveau-là, moi, je me sens obligé de faire mon avis contraire et de dire que je suis pas du tout convaincu, d'une part, que les gens soient prêts à accepter au niveau sociétal les glass holes ou les Apple holes ou les gens avec les lunettes Apple, parce que le problème c'était la caméra et du coup les gens savent pas quand tu es filmé, quand tu filmes les gens, etc. Et puis avoir l'air cool, il faudra vraiment qu'ils bossent. Alors le design c'est leur point fort, ok, mais la montre elle est moche. Enfin, je suis pas convaincu qu'ils réussissent à rendre ça sexy, quoi. Et même qu'il y ait des applications, parce que on peut les imaginer. Et toi tu en avais vu, Jeff, dans tes rencontres diverses. Mais bon, enfin, tout reste à prouver. Et dans 6 mois environ, on aura peut-être la réponse si c'est cette année, puis sinon l'année prochaine, quoi. Parce que ça a l'air vraiment, d'après les rumeurs, assez sérieux. Bon, bah écoutez, on avance. Un petit mot rapide pour dire que d'après App Annie, les revenus des App Store sur Android vont surpasser bientôt les revenus de l'App Store d'Apple. Alors, avec deux explications. D'une part, il y a beaucoup plus d'Android, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'Android dans le monde que d'iPhone, et il y a beaucoup d'App Store différents, et si on les réunit, c'est pas uniquement le Play Store, mais si on les réunit tous, ça fait bientôt des revenus supérieurs à ceux de l'App Store, donc c'est notable. Et puis une autre statistique importante, c'est StatCounter, ce coup-ci, qui nous la livre. Android compte désormais comme une plus grosse part de marché d'utilisation d'Internet que Windows. Et c'est la première fois que ça arrive, et évidemment, c'est fou, ça. Monumental. Mm-hmm.
Mm. C'est fou.
Ouais. Vous vous rendez compte, il y a plus de gens qui vont sur Internet avec Android qu'avec Windows. Alors, en fait, quand on y réfléchit un instant, c'est logique, mais quand on vient d'un monde comme nous, où qui avons un petit peu plus de 25 ans, on a connu un univers où c'était Windows ou rien, c'est saisissant de voir que 10 ans après les premiers smartphones, l'arrivée des premiers smartphones, on en est là. Windows est déjà bon, pas out, mais se fait surpasser, quoi. Voilà.
Ça va oui. Dans la tendance aussi, tu vois la dernière ligne de Mac, hein, où tu vois qu'il commence à traire et puis à vraiment être braqué sur faire de la marge, parce qu'ils savent qu'ils vont plus faire du nombre. Et tu vois, l'innovation dans le desktop est plus très intéressante, etc., etc. Donc ouais, c'était évident, mais c'est vrai que le jour où on y arrive, ça fait quand même quelque chose.
Ouais, c'est ça. Tu te dis ah ouais, donc la première plateforme d'accès à Internet. En fait, c'est pas du tout Windows, quoi. Ok, mais Bon, donc, bah, écoutez, voilà pour nos gros sujets. On va continuer avec nos petites news et rumeurs. Avant ça, je vais prendre le temps de remercier évidemment très, très, très chaleureusement les auditeurs qui choisissent de soutenir financièrement le rendez-vous tech, financièrement le rendez-vous tech. Et je vous remercie tous évidemment du fond du cœur et en particulier aujourd'hui Benoît Lejeune, Orisis avec deux S, Hector Keller, Sébastien, Béna et Daniel P. Merci à vous tous qui choisissez de soutenir cette émission si elle vous apporte quelque chose, si elle vous fait passer un bon moment, si elle vous résume les infos importantes, si elle vous donne des détails que vous n'auriez peut-être pas eu ailleurs. Eh bien, pensez peut-être à aller sur patreon.com/rdvtech. Les notes sont, le lien est dans les notes de l'émission. Et puis, ça prend 2 minutes, $1, $2 par épisode, le moins que le prix d'un café. Ça compte évidemment. Engagez-vous. Vous savez qu'il y a beaucoup de discussions sur la citoyenneté en cette période d'élection. Eh bien, moi, je dis, l'engagement est aussi pour soutenir les médias qu'on apprécie et le travail qu'on apprécie. Si ça vous parle, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous. News et rumeurs. Alors, on va parler de Google, de Android O dans un instant. Mais avant ça, je voulais évoquer Neuralink, le nouveau projet complètement fou de Elon Musk. Et c'est un projet, je crois que si n'importe qui d'autre en aurait parlé, à part Elon Musk, je crois que tout le monde aurait ri, pointé du doigt et se serait désintéressé de la chose en 2 minutes. Mais comme c'est Elon Musk qui en parle et qu'il a déjà fait des trucs absolument incroyables alors que personne n'y croyait, eh ben oui, forcément, on y prête un petit peu plus attention. Alors, qu'est-ce que c'est que Neuralink ? Neuralink, c'est un système qui va permettre de connecter une interface informatique au cerveau directement, aux neurones directement. C'est une interface corticale directe, en fait, et c'est une technologie qui est déjà, qui existe déjà. Sachez que c'est pas complètement de la science-fiction. Alors c'est, ça existe pour des choses relativement simples, comme le fait de contrôler les mouvements d'un bras artificiel, par exemple. On a fait sur des souris contrôler une souris par une autre souris. Enfin, ça va loin, hein. C'est des petits mouvements simples, mais il n'empêche. Et ce qu'ils veulent faire au départ, c'est des choses qui sont pas non plus la matrice, hein, c'est pas de matrix tout de suite, c'est des applications très concrètes de soins de maladies neuronales, des trucs de maladies d'Alzheimer, enfin ce genre de choses, pour aider à garder le contrôle de son corps et de ses muscles. Et puis à terme, la chose qui fait vraiment là pour le cas rêver, fantasmer, peur, tout ce qu'on veut, c'est l'idée que il veut développer un système d'exploitation, une plateforme pour tous ces objets différents, c'est-à-dire vraiment on parle de bionique là, de personnes bioniques avec des trucs encore une fois qui existent aujourd'hui, des bras, des yeux, des etc. Et ça existe, il y a déjà des gens qui ont des petites caméras, alors c'est monochrome etc. mais qui sont connectés à leur cerveau et qui leur sur leur nerf optique plutôt, qui leur permettent de voir des formes etc. etc. Et il faut un système d'exploitation pour ça, et c'est ce que propose de développer Elon Musk avec donc cette technologie du Neural Lace, qui est ce qui permet physiquement, technologiquement, de connecter la partie informatique à la partie neuronale. Donc voilà pour ce résumé. Est-ce que c'est complètement fou ? Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous fait peur, Ben ? Je vois que tu es...
Moi, je suis ça depuis un moment et j'ai vu en action des personnes qui utilisaient ce type de technologie au Cybathlon. C'est C-Y-B-A-T-H-L-O-N. C'était en fait un événement dans un stade de hockey où des personnes en situation de handicap utilisaient soit des exosquelettes, soit des technologies robotiques pour faire des choses, dont...
Mais connecté à leur cerveau ?
Alors, une de ces technologies, c'était justement ces casques que tu connectes à ton cerveau et qui faisaient une course virtuelle, mais pas simplement, ils devaient faire plusieurs types de gestes. Donc, ils devaient des fois sauter, des fois passer sous un petit peu comme les jeux qu'on a sur console, quoi. Et c'était extrêmement intéressant de voir ça. Alors, je me suis intéressé un
petit
peu plus...
Donc, c'est pas de la science-fiction, hein, tu confirmes, c'est des trucs qui existent aujourd'hui, quoi.
ça existe. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a une limite vraiment malheureuse. Et la limite malheureuse, ça s'appelle notre crâne. Donc, pour vraiment qu'on soit efficace, parce que les ondes, bah, elles tapent contre le crâne, et puis physiquement, bah, c'est une barrière, là, on pourra pas y échapper. Donc, il va falloir être d'accord un jour ou l'autre si on veut vraiment passer une étape et capter plus d'ondes, nous faire des petits trous dans le crâne. Et là, c'est un univers qui s'ouvre. Donc, je nous ai inscrits les trois déjà comme volontaires, hein, ça c'est réglé, mais c'est super. Alors, si vous voulez encore un dernier, si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, je vous invite à aller voir un site qui s'appelle cnbi.epfl.ch. C'est là où je me suis un petit peu renseigné ces histoires. Donc, c'est les écoles polytechniques ici qui travaillent justement sur ce type d'interface et c'est génial. Donc, je n'étais pas surpris de voir ça, mais comme d'habitude, ce qui est super, c'est quand Elon Musk dit quelque chose, d'un coup, ben, il y a les projecteurs qui tombent dessus, et puis ces gars-là, ben, ils vont avoir plus de moyens, et tant mieux.
Ouais. Jeff, toi, tu as suivi un petit peu l'affaire aussi?
Oui, bien sûr. Enfin, Jeff, ça fait partie des choses un peu, je dirais, à la limite du débile, mais des trucs un peu fous dans lesquels on investit. Donc, on a fait, il y a 2 ans, un investissement dans une boîte qui s'appelle HALO Neuroscience, et ça c'est un neurostimulateur donc pour ton cerveau. Donc on va envoyer du courant à très basse tension dans certaines zones de ton cortex de manière à créer une réponse. Le premier produit, c'est un produit qui est focalisé sur le sport, et donc en utilisant c'est sous la forme d'un c'est des écouteurs en gros avec qui vont se mettre au-dessus du crâne et qui vont envoyer un écran très très léger pendant à peu près 20 minutes dans ton cerveau. Et si tu t'entraînes, tu fais un effort physique en utilisant ce produit, tu vas en fait augmenter ta performance d'à peu près 10%, ce qui est énorme quand on sait le travail que des athlètes de haut niveau doivent faire pour s'améliorer, ne serait-ce que de 1 ou 2%. Et derrière, il y a eu toute une théorie, parce que la neurostimulation, c'est pas nouveau. Simplement, cette boîte, Hello Neuroscience, l'a mis à disposition du marché de masse. Le prochain produit que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est un produit pour la mémoire qui t'aide en fait à récupérer l'équivalent de l'efficacité de la mémoire que tu avais quand tu avais 25 ans. Qui, pour les gens comme moi et voire comme Patrick, sachant qu'à partir de 45 piges, ça part en couille, c'est vraiment super excitant. Derrière, je voulais juste mentionner une boîte que j'ai vue la semaine dernière. Donc, c'est deux chercheurs de Cambridge, donc l'université de Cambridge en Angleterre, qui eux ont développé l'équivalent de ce dont parle Elon Musk pour les prothèses. Donc, ils ont créé une espèce de base standard pour les prothèses, pour les bras et pour les jambes, avec une connexion directe sur les nerfs, où en gros, la prothèse, bah, c'est un bout de platine avec une espèce de base en plastique super dur, sur lequel que tu vas implanter dans le bras ou dans la jambe où il y a donc un bout qui manque. Mais derrière, tu vas avoir ces fils qui vont être rattachés directement sur les nerfs du bras ou de la jambe, de manière à créer une interface électrique qui permet ensuite de contrôler au travers donc de tes nerfs et donc de ton cerveau la prothèse, de manière à faire une prothèse active pour marcher ou pour bouger, etc. etc. Et c'est pas du tout de la science-fiction, c'est quelque chose que les Gus ont démontré au travers de leur sujet de thèse. Et ils cherchaient de l'argent, et je pense qu'ils vont avoir aucun problème pour en trouver, parce que le gros problème dans cette industrie, c'est le manque de standardisation. Et donc le fait d'avoir aussi bien des interfaces standards physiques que logique sous forme de système opératoire, ça permettra énormément de progrès. Donc voilà, c'est bienvenue dans mon jour le jour. C'est ce que je fais, tu vois. Mais c'est ce que je fais dans mon boulot.
C'est là que, et ça a l'air passionnant. Et du coup, Elon Musk, qui doit avoir navigué dans les mêmes eaux, et c'est là que tu vois le génie du mec. Encore une fois, quoi, parce que il voit tout ce qui est en train de se passer, et bien sûr, il a lui tiré sur le fil du Neural Lace, qui est ce type de connexion qui permet de se connecter au aux neurones, mais au-delà de ça, il y a l'ambition affichée de créer un système d'exploitation qui va justement résoudre le problème dont tu parlais, que t'évoquais, Jeff, qui est cette histoire de standardisation, parce que tous ces machins, ils arrivent pas à fonctionner ensemble facilement, parce que tout le monde développe ses trucs dans son coin, donc forcément, tu peux pas. C'est un petit peu comme l'internet des objets, quoi. Quand t'as quatre standards différents, bah t'achètes un truc ici, t'achètes un truc là, et ça fonctionne pas super bien. Et là, on est encore aux étapes de remplacement, genre bah j'ai un bras qui marche pas ou qui a été coupé ou machin, bah je vais remplacer mon bras, mais peut-être qu'à terme ça pourra aller plus loin et pourra aller à l'amélioration de l'humain. Et là, le marché sera peut-être plus gros et du coup, il faut un standard, quoi. Et lui, il est déjà sur cette vision-là et il va lancer les débuts de l'investissement, non pas juste financier, mais intellectuel et de travail pour faire le travail de fond avant. Enfin, c'est dingue parce que avant que lui n'en parle, personne n'avait vraiment pensé à ça. Alors peut-être qu'il voit sur 10-15 ans.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Patrick. C'est
non, dans le grand public, je veux dire. Nous,
ouais, c'est
ouais,
ça.
C'est une problématique qui existe, qui a été identifiée depuis longtemps. Mmh. Tu as beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus, mais tu as complètement raison. L'avantage, c'est que parce qu'Elon Musk s'attache à mettre son nom et son argent derrière, clairement, il va y avoir énormément de progrès qui vont être faits grâce à ça. Donc, c'est ça. De toute façon, c'est un des plus grands inventeurs de notre temps. Je pense que, clairement, il avait commencé à avoir le titre, mais alors qu'il commence franchement à aller chercher des choses très avancées de façon pluridisciplinaire, c'est vraiment super, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il a absolument peur de rien, il a aucune limite, et c'est pour ça qu'il fera énormément de progrès.
Bah, c'est sûr que Tesla, SpaceX, Hyperloop, qui lui, il avait juste dit, ah ouais, maintenant, ça commence à être intéressant. Mais tu sais pas comment il réussit à pointer du doigt des trucs qui, en fait, paraissent fous, mais en fait, ne sont pas fous, quoi, sont exploitables. Enfin bon, bref, on va pas faire tout l'épisode sur Elon Musk, on pourrait, et je pense que ça serait justifié. Jeff, je crois que, malheureusement, le moment est venu de se séparer de toi pour cet épisode.
Yep.
Eh ben, écoute.
Donc, merci à tous, merci à toutes encore d'avoir nous écouté. Merci à ceux qui supportent Patrick, parce que ça lui permet quand même de faire tout ça. Donc, merci à vous. Et puis, bah, je vous retrouve d'ici un petit mois.
Exactement. Merci à toi, Jeff. À la prochaine.
Allez, ciao, ciao.
Ciao.
Allez.
Bon, bah, nous, on continue avec Android O, qui, pour le coup, franchement. Oui. Comment dire ? Google est en train de prendre une nouvelle approche avec ses systèmes d'exploitation. Déjà, c'était le cas l'année dernière. Ils avaient lancé Android N aux développeurs sans grande présentation. Il y avait eu ensuite Google I.O. où ils l'avaient détaillé, évidemment. Mais du coup, il n'y a pas un gros coup marketing pour le lancement. Et je crois, à mon sens, ça reflète un petit peu le fait que, ce qu'on dit tous, hein, les systèmes d'exploitation de téléphone mobile, non seulement ils sont plus hyper excitants parce que c'est que des mises à jour incrémentales, et on le voit vraiment avec Android O, il y a des trucs cool, hein, avec le centre de notification, il y a plus d'autonomie avec la batterie parce que justement ils sont beaucoup plus stricts avec ce que les apps peuvent faire ou pas faire, etc. Mais il y a donc moins d'excitation que dans les premiers temps. Et puis aussi, peut-être que sur Android, on se rend compte que il faut un an et demi pour que les téléphones commencent à avoir la dernière version. Donc peut-être que c'est pas la peine de faire la grande fanfare et la grande présentation quand on se rend bien compte que les utilisateurs, en fait, à moins de vraiment aller la chercher spécifiquement, ne vont pas avoir cette version de toute façon avant un moment, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, de cette annonce de Android O qui était, encore une fois, comme l'année dernière, c'est dispo pour les développeurs en bêta, on en parlera à Google I.O., voilà les fonctionnalités, bon, ok.
Ouais, c'est vrai. Alors, moi, je viens de passer sous N, hein, donc effectivement, j'ai là vraiment une guerre de retard. Mais c'est intéressant. Alors, c'est vrai qu'on a des petites choses, genre tu peux maintenant vraiment aller paramétrer tes notifications, celle-là, rien ne bouge à part celle-là, mais que pendant 30 minutes. Bon, d'accord, hein, c'est super, mais il faut déjà vraiment être un super utilisateur profond pour aller à ce niveau-là. Après, meilleure batterie, mais ça, ils le font constamment. Donc t'as raison, c'est comme tu dis, les développeurs que j'ai vus en parler sur YouTube étaient tout fous du nouveau centre de
De
contrôle.
notification.
Mais oui, mais bon, tu vois, enfin voilà quoi, mais visiblement ça plaît aux développeurs, tu vois, l'état d'esprit. J'ai regardé quelques vidéos, tout c'était, c'est pas forcément, tu vois, Android Central, c'est des gens qui en parlent et ils étaient tous plutôt motivés, ça a l'air de faciliter leur boulot, tant mieux. Mais effectivement, après Neuralink, difficile.
Ouais, oui, bon, c'est sûr que là, on met la barre haut, hein, mais d'ailleurs, il y a une autre marque que je me fais à propos de Google depuis quelque temps. Surtout depuis, ils ont supprimé Talk, qui était une des interfaces. Enfin, ils ont eu tellement de projets ces dernières années qu'ils ont suivi pendant un an ou deux à moitié. Tu sais, ils y mettaient pas vraiment le cœur, et puis ils sont en train de supprimer plein de leurs moonshots. Tu sais, de leurs trucs complètement fous qui, pour le coup, contrairement à Elon Musk, qui en avait un sur cinq qui donnait quelque chose. Et je me dis que je me demande si Google n'est pas un petit peu en train de devenir le Microsoft de cette génération ou de cette décennie, je sais pas comment le dire, en ce sens que ils ont essayé 1000 trucs différents, mais au final, le truc qui est leur business, eh ben, c'est la pub. C'est la pub sur Google, sur le moteur de recherche, bien sûr. C'est la pub sur YouTube, parce que YouTube est genre le deuxième moteur de recherche de l'histoire, enfin du monde, le plus important. Et bien sûr, ils gagnent de l'argent avec de la pub là-bas. Enfin, et tu vois, leur business, c'est la pub de la même manière que le business de Microsoft dans les années 90 et 2000. Eh ben, c'était Windows, et ils avaient d'autres trucs. Alors oui, il y a Office ici, il y a quelques trucs, il y a la Xbox qui fait quelques petites piécettes ici et là, mais vraiment leur business c'est Windows, et ils n'arrivaient pas à se diversifier jusqu'à l'arrivée du grand dieu Satya, qui là a mis Microsoft partout. Mais je me dis, est-ce que Google, en ce sens-là, ils sont pas coincés dans leur marché qui a fait leur succès au début? Et ils n'arrivent pas à aller ailleurs, parce que tout ce qu'ils essayent, au point que, enfin, tout ce qu'ils essayent au final finit par être, alors soit se planter, soit être retiré discrètement, soit on se dit mais pourquoi vous y êtes pas allé à fond, tu
Tu te
vois?
souviens de Space?
Mais bien
Ça,
sûr,
c'est
il y avait
ce truc.
Spaces, il y avait Wave, il y avait, enfin,
Ouais, non,
c'était.
c'est clair. C'est clair. Il y a une nouvelle que j'ai trouvée intéressante par rapport à Google. C'était, tu sais, ils sont en train de passer toute le back-end de la société en machine learning, donc en intelligence artificielle. Mais il y a un gros problème et avec ça, c'est que l'intelligence artificielle est un peu une boîte noire. Et quand tu as un problème comme celui qu'ils ont eu sur YouTube, où d'un coup les gens te disent, attends, pourquoi ma pub elle est à côté d'un truc affreux dont j'ai en tout cas pas envie d'être
On
associé?
va en reparler dans un petit moment, oui.
Ah ben voilà, bah du coup, avec le machine learning, déjà maintenant c'est difficile à expliquer, mais avec le machine learning, tu n'as plus aucune chance, quoi. Tu dis, bah parce que mon ami, parce que l'ordinateur a décidé, point final, quoi. Et ça, c'est intéressant, ça montre les limites aussi pour une boîte qui parie sur le machine learning, tu vois. Est-ce que c'est le bon pari? Alors peut-être qu'ils vont faire des DeepMind, et toi, c'est bien beau de jouer au Go, c'est cool, moi j'adore, mais comme tu dis, est-ce que ça peut faire un produit? Est-ce que ça peut faire le next billion dollar idea? Ouais, compliqué.
Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, malgré tous leurs efforts, Google, c'est la pub, et même Android, hein, Android, c'est la pub, c'est utiliser les produits Google pour te vendre de la pub dessus. Donc, tout ce qu'ils font, c'est la pub. Bon, on va pas les plaindre, hein, ça marche plutôt pas mal. Mais voilà, c'était une remarque que je me faisais. Et justement, à propos de Microsoft, tiens, la Creators Update de Windows 10 va arriver le 11 avril, donc on y est presque, là, on est à une semaine. Alors, c'est une mise à jour gratuite, bien sûr. Et il y a une chose qui était assez intéressante, je crois que c'était dans This Week in Tech qu'ils en parlaient, enfin bref, j'ai entendu ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme remarque. La Creators Update, c'est un petit peu, alors c'est plus intéressant que Android O, hein, mais c'est un petit peu la mise à jour. Bon, ok, il y a des trucs sympas, voilà, mais c'est pas le truc qui va nous faire sauter au plafond. Mais caché derrière cette semi-indifférence, il y a un truc qui est vraiment significatif, c'est que Windows 10 maintenant, ils sont plus en train d'en éteindre les feux. Tu vois, ils sont plus en train d'aller éteindre les incendies, ils sont plus en train de dire « Oui, oui, non, mais attends, alors Windows 8, on va l'arranger comme si, on va Windows 10, ça va être beaucoup mieux, machin. » Non, maintenant, bah le consensus est quand même assez clair, au-delà des petites histoires qui viennent de temps en temps. « Ah, ils font de la pub dans le menu démarrer, ah, ils font ceci, ils font cela. » Mais d'une manière générale, on est quand même dans une configuration où Windows 10 est stable, apprécié par tout le monde. Et là, ils ont une mise à jour qui est tournée vers l'avenir, qui amène des fonctionnalités nouvelles, différentes, plutôt que l'idée de se dire on est tout le temps en train de corriger les merdes qu'on a eues jusqu'à maintenant, quoi.
Mm-hmm. Je pense que ouais, ils ont réussi à faire leur passage à, disons, à un système d'exploitation qui leur permet d'être sur plusieurs types de plateformes. Et comme tu dis, maintenant, ça fonctionne. Ils touchent plus. D'ailleurs, c'est juste, hein, ils veulent plus changer de nom. Ça va être Windows
Alors,
10
je crois,
pendant,
oui, je pense, pendant un bon moment.
Donc, on touche plus rien et c'est vrai que c'est très bien. Je pense que tout le monde en a besoin, au point même que j'admets que mon prochain ordinateur sera très probablement sous Windows. J'en ai un petit peu marre de Mac. Je suis pas convaincu par leur nouveau hardware. Donc, et au demeurant, je suis convaincu par la stratégie de Microsoft. Donc voilà, oui. Je trouve que c'est effectivement des bonnes nouvelles.
La Satya Mania ne tarit pas. À propos des grands esprits et des grands créateurs de cette industrie, vous vous souvenez très certainement d'Andy Rubin, le créateur d'Android. Bon, c'est une news très rapide qui finalement n'a pas grand-chose de substantiel, mais qui est marquante parce que bah c'est lui, c'est Andy Rubin, qui était chez Google pendant très longtemps. Eh bien, il travaille sur un nouveau téléphone et il a mis un tout petit teaser où il montrait en fait un coin d'un téléphone qui n'avait quasiment pas de bord et peut-être qu'il a un bord en bas, mais là c'est, on a l'impression que c'est le haut et il y a vraiment 1 ou 2 millimètres de bord et c'est tout sur le côté et sur le haut du truc. Et donc voilà, c'est juste qu'il travaille sur ton téléphone, on n'en sait pas grand chose de plus, mais il fait son teasing et il devrait nous en parler un petit peu plus bientôt. Alors a priori ça sera sous Android, hein, ce téléphone, peut-être avec une version modifiée. Mais forcément, quand Andy Rubin commence à parler d'un truc comme ça, eh ben, on y prête attention, quoi.
Ah non, mais je crois que tu t'es fait avoir. Alors, en fait, il a juste voulu montrer avec cette photo qu'il avait reçu le S8 avant tout le monde. Donc,
Pas du tout, pas du tout.
C'est vrai qu'on se retrouve un peu là-dedans. Hein. Pas de bord, énormément d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on attend, très haut de gamme. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de voir, il veut pas faire un S8 ou un iPhone. Donc, on est dans la même question qu'on se posait avant. Qu'est-ce que c'est le différenciateur? Tu vois, c'est pas le bout de l'écran. Bon, à voir bientôt, on espère.
Effectivement. Facebook est en train de encore une fois mettre des stories dans un endroit de plus. En fait, maintenant, il y en a partout des stories. Alors, vous vous souvenez, si vous n'êtes pas un Jones, si vous êtes comme moi et que vous ne connaissez pas la folie de Snapchat, je crois que Ben nous disait que lui, il était client. Les stories, c'est un truc qui vient de Snapchat. C'est des petites vidéos ou des petites images qu'on peut publier pendant et qui restent visibles pendant 24 heures environ et que seuls nos amis peuvent voir. Qui disparaissent au bout de 24 heures. Je dis que seuls nos amis peuvent voir, c'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a aussi les stories publiques qui sont en train d'être agrégées dans un module de recherche par Snapchat. Donc ça part un peu dans tous les sens, mais bref, Facebook les a mises dans Instagram, dans Facebook Messenger, dans WhatsApp et maintenant dans Facebook tout court. Et ce qui est marrant, c'est que les stories de Facebook tout court ne sont pas les mêmes, c'est pas le même réseau que les stories de Messenger. Genre, ils en ont mis, mais alors absolument partout, en quoi, 3-4 mois. Et alors, je sais pas comment ça se passe quand on est sur l'interface web. J'imagine qu'ils s'en foutent aujourd'hui de l'interface web, ça ne marche que... c'est le plus important, c'est sur les mobiles. Mais alors c'est toujours une preuve de cette puissance d'adaptation de Facebook à ce qui marche. C'est ça, s'est pas démenti depuis les 10 ou 12 ans que Zuckerberg est à la tête de la société et le créateur de la société. ils sentent venir les trucs qui sont importants. Bon, les stories, ça fait un moment, mais là, sans aucune honte, ils copient exactement le truc et ils le mettent partout. Mais du coup, Ben, pourquoi à ce point, quoi? Instagram, Messenger, WhatsApp et Facebook. Mais enfin, c'est dingue, quoi.
Écoute, alors on va faire un petit test. On va prendre chacun notre téléphone favori en main, aller sur WhatsApp et regarder combien il y a de personnes qui ont posté un statut maintenant. Combien il y en a de disponibles donc dans ces 24 heures. Chez moi, c'est comme hier et comme avant-hier, c'est-à-dire c'est zéro. pourtant, j'ai pas mal de gens. Alors, c'est pas, on peut dire, ouais, c'est parce que t'as pas d'amis. D'accord, c'est peu. Mais non, c'est qu'il y a vraiment personne qui le fait. Est-ce que toi, t'as des gens qui ont posé un statut sur WhatsApp?
WhatsApp, non, mais WhatsApp, tu vois, c'est des vieux qui l'utilisent. Moi, mes amis, c'est des vieux.
Non, ça mais oui, mais c'est, le truc, c'est ça. C'est qu'ils le posent partout parce que pourquoi pas, ils regardent qu'est-ce qui colle. Et c'est la beauté, hein, on dit, si t'essayes assez, bah, au final, ça va marcher. C'est vrai, moi, un truc qui m'a beaucoup plus intéressé, je dois dire.
Pardon, juste avant que tu continues sur le reste, sur Instagram, par contre, il y a des stories tout le temps. Moi, j'ai tout le temps deux, trois. Alors pas tout le monde, hein, mais il y a deux, trois personnes. Il y a toujours il y a toujours deux ou trois stories actives. Moi, je les regarde pas parce que, comme je disais, je suis vieux et je m'en fous de ces trucs de Jones. Mais il y en a toujours deux, trois. Donc tu vois, ça marche pas sur WhatsApp, mais par contre sur Instagram, oui.
Ouais, et je pense qu'Instagram est plus intéressant justement. J'ai pas vu. Je suis pas vraiment un power user non plus d'Instagram, mais il semblerait qu'ils vont ou qu'ils ont mis les réservations via Instagram. Et ça, je trouve hyper malin parce que quand tu vois une belle photo, un bon restaurant, un bon spa, un bon coiffeur ou ce que tu veux, directement pouvoir essayer de réserver depuis Instagram, je trouve ça brillant. Tu vois, ça, moi, ça m'intéresse parce qu'il y a une interaction.
Les stories, t'en fous, mais
voilà. Il y a une valeur ajoutée, tu vois, les stories, mais bon, ouais. Mais c'est vrai que Snapchat, je vais un peu me forcer pour y aller, hein.
Ah oui, d'accord, c'est pas ton réseau social préféré.
Non, je suis comme toi, j'aimerais comprendre, mais je comprends pas. Après, j'aime bien pour avoir les thèmes du moment, tu vois, rester un minimum au contact, mais c'est à peu près tout.
Bah, si vous êtes un petit peu plus jeune que nous et que vous pouvez peut-être avoir un moyen de nous expliquer Snapchat, enfin en tout cas les stories et la popularité des stories qui est indéniable, hein, c'est clair, venez sur frenchspin.fr et venez sur les notes de cet épisode et expliquez-nous ça un petit peu. On a hâte de comprendre, nous de notre grand âge, ce qui est populaire avec les jeunes.
Oui, s'il vous plaît.
Si vous êtes à la recherche d'un système d'objets connectés, si vous avez écouté l'upload de spécial de Noël ou de fin d'année, je sais plus, où on vous avait fait tout un topo là-dessus avec Cédric, et que vous n'êtes pas forcément hyper riche comme ceux qui investissent dans les systèmes Philips Hue, peut-être que vous serez intéressé par le nouvel ensemble d'IKEA qui s'appelle Trådfri. Je ne sais pas si l'accent est bon. Trådfri. Je vais en essayer encore.
Ah, ouais.
Trådfri, tu vois.
Je pense que c'est ça. On s'approche. Ouais, ça doit être très chantant. C'est pas mal.
Bon, en français, je pense qu'on dirait plutôt Trådfri. Mais donc c'est un système qu'ils ont sorti, bah, on va dire un petit peu enfin, parce que une société comme IKEA, c'est un petit peu pile leur cœur de métier. Et c'est un système qui est, alors je sais plus quel est le standard spécifiquement, mais c'est le même que les Philips Hue. Donc a priori ça devrait marcher très bien. C'est surtout assez bon marché. Il y a des ensembles qui sont moins chers que ce qu'on trouve chez Philips et qui sont pas moins capables. Donc voilà, c'est peut-être un truc qui intéresserait. Je sais pas s'ils sont déjà disponibles en France. Je sais qu'ils existaient peut-être en Suède depuis un moment et ils sont en train de se lancer. Normalement, c'était le 31 mars. C'était le 31 mars dans les magasins suédois. Ça va arriver ailleurs ensuite. Voilà, c'est peut-être une chose à suivre du coin de l'œil si vous voulez vous équiper et que vous n'avez pas forcément envie de dépenser des centaines d'euros. Là, c'est un petit peu plus doux le prix. Alors, c'est pas bon marché non plus, hein, mais voilà. T'es équipé en maison connectée, en ampoule connectée, tout ça?
Pas vraiment. J'ai essayé, mais c'est vrai que j'ai pas. Je pense que c'est un peu du tout au tout. Je vois des personnes qui ont vraiment une maison entièrement faite, toi, avec ta tablette, t'allumes et t'éteins les choses à distance, t'as tes stores, etc. Mais si t'as qu'une ampoule, toi, c'est un petit peu malheureux. Donc,
Je te confirme. Je te confirme, ouais. C'était mon impression aussi. Au début, j'ai commencé après l'émission qu'on a fait. Je me suis dit, oh, là, ça a l'air sympa. J'ai acheté genre deux ans, une ampoule, un truc. Ça sert à rien. Je suis retourné le lendemain et puis j'en ai acheté quatre et ça m'a coûté 150 euros de plus. Non, c'est mais c'est pour le boulot, tu vois. C'est pour tester les trucs connectés. Donc, il faut bien. C'est pour ça.
Oui. Mais c'est intéressant. Je pense qu'on va voir les nouveaux bâtiments aussi. C'est pas mal. Et ça, on est où? Toi, t'es dans quelle région? En Finlande, ils sont très connectés ou ça
non,
va?
Non. Enfin, connectés, oui, à Internet, je veux dire, beaucoup plus qu'ailleurs.
Oui, non. Mais,
mais par contre, les objets connectés, c'est vraiment un truc de geek, de fan, tu vois. C'est des trucs que des gens comme Cédric ou moi ou certains de nos auditeurs se disent, oh, c'est super, je vais connecter toute ma maison pour allumer la lumière d'un coup. Alors c'est pratique quand tu l'as, tu vois, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'emmerder à le faire si toi t'es pas à la base intéressé par le truc? Non, je pense pas. C'est pas, tu vois, c'est pas comme se dire bah oui, dans une maison il faut internet, il faut l'eau courante, il faut l'électricité. Ça c'est vraiment si t'as envie, quoi. Free a annoncé son forfait 4G illimité. Alors après le forfait data dans en Europe et aux États-Unis, là il y a eu une autre annonce, c'est tout illimité, appel, SMS, MMS et internet 4G. Et à l'étranger, on a toute l'année 5 gigas par mois. Je sais plus si on en avait parlé. Alors il y a des gens qui ont suivi, hein, mais voilà, c'est Free qui continue à faire baisser les prix des autres sociétés de téléphone mobile pour nous. Merci beaucoup à Free. Même si leur réseau reste relativement peu performant, bah, ils forcent les autres à descendre un petit peu. Donc c'est la concurrence en marche.
Ouais. Ça, écoute, nous, on a à peu près en Suisse les mêmes offres et tout ça, à part que c'est 8 fois plus cher. Donc, effectivement, je crois que...
c'est un détail. C'est les mêmes offres. Mais tu sais, pour vous, les Suisses, l'argent est une virgule. Ça compte pas tellement, n'est-ce pas? On le sait bien.
Exactement. Donc, je crois que Xavier Niel est arrivé en Suisse. Hein. Il a racheté une société de téléphonie mobile. Donc, tout le monde est là. Ouais, on va enfin avoir les mêmes genres d'offres. Mais évidemment, toi, lui, il voit qu'il peut faire de la marge ici. Il n'est pas fou. C'est pas juste le bonheur de baisser le prix qu'il le fait. Donc, on attend. Patiemment, on attend.
Très bien. Eh bien, écoute, on vous souhaite que les choses évoluent comme elles ont évolué ici et dans ce domaine en tout cas. Et puis dernier sujet quand même qu'on va évoquer, c'est cette histoire de publicité sur YouTube dont tu parlais tout à l'heure avec on en avait parlé un tout petit peu la dernière fois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les annonceurs se sont rendus compte que leurs pubs étaient placées sur des vidéos dont ils n'étaient pas forcément contents de l'association. Et ils ont commencé à exiger de Google d'avoir plus de contrôle sur quel type de vidéo ils allaient sélectionner pour afficher leur publicité. Et il n'y avait pas vraiment ce type d'option disponible dans le back-end, quoi, de Google, de YouTube, à l'origine. Et ils ont travaillé, mais en overtime complet chez Google pour mettre en place tous ces systèmes parce qu'il y avait des annonceurs qui commençaient à boycotter YouTube. Enfin, et c'est marrant parce que ça impacte entièrement l'intégralité de l'écosystème parce que YouTube était une plateforme où on avait une liberté presque totale. Alors évidemment, il y avait des trucs illégaux qu'on n'avait pas le droit de faire, mais enfin, si on voulait aller troller tout le monde, être hyper agressif, lancer nos théories de la conspiration partout à chaque minute, bah voilà, il y avait personne pour vous en empêcher et ça crée
des
communautés.
C'est comme ça que t'as commencé.
Bah voilà, bien sûr.
C'était le bon temps.
Je parle depuis bien longtemps de ce scandale qu'on essaye de nous faire avaler du truc là, vous souvenez, hein? Bon, bref. Et donc les communautés comme ça se sont créées parfois avec des gens qui créaient des comment dire qui surfaient sur des sujets à controverse ou voilà, et donc les communautés étaient un petit peu acides et eux-mêmes étaient un petit peu acides et parfois c'était d'autres choses. Il y avait des trucs un petit peu moins plus comment dire, des sujets un petit peu plus chauds auxquels les annonceurs n'auraient pas forcément voulu être associés, mais des trucs qui peuvent être, par exemple, je vais prendre un exemple, hein, au-delà des gens qui vont lancer leur théorie du complot et qui ont une chaîne YouTube qui serait comparable à ce qu'on a sur le câble aux États-Unis, vous savez, le late night cable aux États-Unis, pour ceux qui voient ce dont on parle. Il y a des gens qui sont dans une situation plus compliquée. Il y a une femme trans qui a une publicité, pardon, pas une publicité, mais une chaîne dans laquelle elle parle, bah voilà, de sujets qui la concernent. Et du coup, ça, c'est un truc qui est difficile à classer pour YouTube. Et les annonceurs, ils vont se dire, ah ouais, alors même si oui, on est pour machin, certains vont vouloir dire non, mais nous, on veut pas être associés à ce type de personnalité parce qu'elle est un petit peu aride, un petit peu acide, là encore. Mais elle est aussi trans, donc c'est un sujet qui est compliqué à trancher d'une manière ou d'une autre. Enfin, moi, j'ai mon avis qui est très tranché sur ce genre de choses, mais ça, pour les annonceurs qui veulent éviter de faire des vagues, bah voilà. Donc c'est pas que des trucs uniquement négatifs, ça pose d'autres questions. Mais il y a une telle pression des annonceurs que YouTube est un petit peu en train de nettoyer de la seule manière qu'ils savent, mais qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils donnent des options aux annonceurs et ils vont dire bah voilà, on va classer les vidéos dans tel type, alors c'est controverse, c'est de la, enfin il y a différents types voilà de catégories, et les annonceurs vont pouvoir choisir où ils vont placer leur pub. Et bien sûr, il y a une énorme partie des annonceurs qui vont dire bah moi je veux que le truc le plus safe, il y a aucune possibilité de controverse. Voilà, moi je mets ma pub sur les trucs hyper safe. Et du coup, c'est ces gens qui avaient énormément de liberté dans leurs propos, qui carburaient à la pub et peut-être parfois un petit peu à la controverse, eh ben ils reçoivent moins de pubs, et c'est en train de se mettre en place encore aujourd'hui, hein, c'est pas complètement mis en place, mais ça provoque beaucoup de mécontentement chez eux, et pas uniquement, comme j'ai voulu le montrer avec cette histoire de la fille trans, pas uniquement pour des gens qui sont dans le caniveau de YouTube et qui vont agiter des pancartes un petit peu nauséabondes, ça peut aussi être pour des sujets complètement compréhensibles, quoi. Donc voilà, c'est un gros truc qui est en cours maintenant et dont on doit parler, quoi, parce que c'est en train de créer de gros problèmes sur YouTube. Toi, t'as suivi l'histoire aussi?
Ouais, j'ai suivi parce que tu te souviens, dans une autre vie, je travaillais chez Google et je travaillais dans tout ce qui était AdSense. Alors AdSense, vous vous souvenez, c'est pour les journaux. Donc, et qu'est-ce qu'on a dans les journaux? Ben, on a exactement la même problématique. Et donc, ça me
les journaux, les sites web, c'est-à-dire qu'il y a n'importe
ouais,
quel site
les,
web.
Oui, oui, les sites web, oui, absolument. Ouais. Donc maintenant, Google fait semblant de découvrir ce problème, alors que bon. Et c'est exactement le même truc, parce que toi, dans des blogs, attends, la qualité est encore pire. Donc, ils étaient tout à fait conscients et tu avais déjà ces mécanismes pour dire bah, « je ne veux pas de contenu « sensitive content » comme ils l'appellent. Alors, c'est très vaste. Hein. Ça inclut des sujets politiques en général, vu que de toute manière, tu n'as pas le droit à la violence et ça, c'est déjà dans les conditions générales. Hein, tu n'as pas le droit de faire des choses qui sont aussi illégales, hein, tout ce qui est aussi pornographique, etc. Donc, toi, ce n'est pas qu'ils découvrent. Après, ça,
oui,
t'as raison.
Non, j'avais pas pensé à cette analogie avec la TENS, mais c'est exactement la même chose et c'est exactement les mêmes problématiques. C'est marrant, donc effectivement, ouais. Ils font semblant, genre, ah, mais alors c'est les équipes de YouTube, mais quand même, ouais.
Ouais, ils sont à l'étage au-dessus, donc ils sont là, ah ouais, non. Mais c'est clair, et puis après, toi, la politique à l'époque était assez simple, c'est de dire, ben oui, t'as la liberté d'expression d'un côté, et donc nous, on est d'accord de proposer des publicités à ces gens-là, mais t'as aussi la liberté de l'annonceur d'apparaître là où il a envie d'apparaître. Et moi, je trouve que c'est un système qui est sain. Alors, on peut dire, ouais, c'est dommage parce qu'il y a certains sujets qui reçoivent moins d'argent, mais en même temps, l'annonceur, s'il veut pas être là, toi, tu peux pas lui dire... Tu peux lui dire...
Oui, on va pas le forcer, quoi.
Ouais, tu peux dire, essaye de voir ton devoir citoyen, mais bon, bref. Donc, c'est très bien. Et chapeau aux boîtes qui ont tapé du poing sur la table. Moi, je trouve ça extrêmement bien. On dit assez souvent, disons, que les sociétés s'en fichent, hein, qu'elles pensent qu'à la bottom line, etc. Et ben là, je trouve qu'elles ont fait leur boulot.
Écoute, moi, je pense que au-delà de ça, il y a aussi une volonté de rééquilibrer un tout petit peu le rapport de force, d'avoir plus d'informations sur les utilisateurs de YouTube, justement, parce que les annonceurs, ils étaient complètement dans le noir et ça leur plaisait pas du tout. Alors, je crois que YouTube fait quand même de la résistance, qu'ils mettent ces options de sélection diverses de catégories pour pas avoir à donner trop d'informations. Mais je pense que c'est aussi parce que, alors oui, effectivement, il y a eu un vrai moment de tapage de poing sur la table, comme tu le dis, sans doute aussi motivé par des associations malheureuses dont ils n'étaient vraiment pas contents et auxquelles ils se sont opposés par principe. Et puis il y a eu aussi cette histoire de rapport de force entre YouTube et Google, quoi, où ils ont essayé de faire valoir leur puissance à eux en disant bah voilà, donc on fait boycott YouTube, et ça se compte en millions et peut-être en centaines de millions de dollars sur la fin de l'année. Donc ça compte là, effectivement, ça fait mal, quoi. Donc
ouais, si vous êtes intéressé à ces trucs, alors là c'est la petite pause geek, hein, mais vous pouvez aller chercher sur Google Taxonomy, vous mettez avec un Y, Taxonomy Ads, et vous verrez les produits sur des listes de produits, comment est-ce que Google les catégories.
Les
et c'est hyper intéressant de voir ça, parce que par exemple vous avez animals, donc les animaux, les produits pour animaux, les shampoings, etc. Donc mais c'est une fenêtre sur le monde. Ouais, je vous ai dit c'était un peu geek, mais c'est une fenêtre sur le monde qui est super intéressante. Vous trouvez des trucs que vous imaginez même pas, mais chaque fois qu'il y a une catégorie là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Donc ouais, regardez à travers.
Très intéressant, effectivement. Eh ben écoute, c'est sur ce sujet intéressant qu'on va conclure l'émission. Et avant de te remercier d'avoir participé avec nous, je vais quand même prendre une seconde pour remercier les auditeurs qui mettent des reviews sur YouTube. Ça y est, je me suis fait bouffer par Google. Sur iTunes, c'est l'autre, c'est Apple, et sur les catalogues de podcasts. Aujourd'hui, je vais remercier Jana Philippa, je remercie Rock'n'Roll Attitude et Alexis TGR qui nous mettent 5 étoiles pour Jana Philippa et pour Alexis TGR, 4 étoiles pour Rock'n'Roll Attitude. C'est marrant parce qu'il me dit « Ah, Patrick devient tatillon, il fait des réflexions par rapport au micro qui pop et aux enfants qui sont dans le fond. » Et par contre, ouais, les trucs de Jeff qui tapait, il a pas fait de remarques, hein, il y a de la préférence, et donc il a mis 4 étoiles peut-être pour cette raison. Mais je vais vous donner un petit secret.
D'ailleurs, il a fait du bruit, Jeff, aujourd'hui, hein, nouveau.
oui, effectivement, on a eu les voitures derrière. Mais tu vois, mais bon, beaucoup moins qu'avec le micro. Là, c'est dans le domaine de l'acceptable et justement et du marrant même à la limite. Moi, je vais vous donner un secret. Quand j'en parle pas, c'est que ça me gêne. Tu vois, quand j'en parle pas, c'est qu'il va falloir faire quelque chose. Et quand j'en parle, c'est que c'est marrant, c'est que ça fait justement, bah oui, on fait du podcast, pas de la radio. Donc tu vois, quand il y a les enfants derrière qui crient, c'est genre, ah, salut, parce que tu le dis pour que les auditeurs sentent bien que toi aussi, tu t'en rends compte, tu vois, pour casser un petit peu la tension. Et quand t'en parles pas, c'est que, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est que je suis là, ah merde, là, c'est chiant. Là, il va falloir que je fasse quelque chose. Et tu vois, donc, je veux pas en rajouter. C'est la technique de PR, tu vois, de communication. C'est genre, tu pointes pas du doigt pour pas que les gens en parlent plus. Donc voilà, c'est mon petit secret de producteur de podcast. Rock'n'Roll Attitude, t'as bien compris, le truc, mais pas exactement la manière dont je fonctionnais. Mais il y a quand même, donc Jana Philippa et Alexis TGR qui nous me donnent 5 étoiles, merci à vous, et bien sûr à Rock'n'Roll aussi qui nous donne 4. Mais donc Alexis TGR qui dit « Podcast d'une qualité rare, sujet toujours intéressant, le présentateur Patrick Béja ainsi que ses nombreux invités résument les technos du moment tout en rentrant dans les détails si besoin. Écoutez les infotech avec toujours une touche d'humour, c'est parfait. Merci à toi Alexis, merci à tous ceux qui nous donnent des commentaires sur iTunes et ailleurs. Et bien sûr, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Vous le savez, c'est grâce à vous que l'émission peut être produite, c'est grâce à vous que je peux me consacrer à ce qui était un passe-temps et qui est devenu un vrai métier avec beaucoup de travail, beaucoup de recherche, des dizaines d'heures par semaine, évidemment, de travail assidu pour pouvoir vous livrer toutes ces émissions qui, j'espère, vous plaisent. Et si c'est le cas, si ça vous plaît, eh ben, dites-vous que peut-être vous pourriez soutenir le Rendez-vous Tech pour $1 ou $2 ou $3 ou ce que c'est sur patreon.com/rdvtech. On vous remercie par avance d'au moins aller faire un petit tour et puis regarder la vidéo. Dites-vous si peut-être ça pourrait vous intéresser et aller investiguer la chose. Ça prend 2 minutes pour s'abonner vraiment et c'est sur patreon.com/rdvtech. Les notes sont, enfin le lien est dans les notes de l'émission.
Ouais, parce que ce qu'on voit pas, c'est que là on a l'impression que tu passes à travers, mais on c'est la pointe de l'iceberg que vous avez. Donc il y a déjà une sélection. Après, il y a une deuxième sélection. On a environ 480 lignes de sujets dont on n'a pas parlé. Alors c'est très frustrant quand on est dans l'émission parce que là, je me dis, ah cool, on arrive à la moitié, là, je commence à me sentir chaud, donc je suis content. Et puis, tu dis que c'est la fin, tu vois, c'est triste. Alors, typiquement, il y a une ligne qui dit débat passionnant sur le Slack du rendez-vous tech, et on saura, voilà, j'aurai pas ton analyse.
Alors, donc, oui, j'en parlerai après la fin. Je dirais, c'est entre les auditeurs et moi, mais on verra. Je te dirai toi ensuite en entre nous, juste tous les deux, mais il y aura un petit mot après. Enfin bref, ils verront.
Ah bon.
Mais bon, s'ils en veulent plus justement de tous ces sujets, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Ben, pour avoir plus de tech?
Alors, ouais, pour m'atteindre, @bkurdi sur Twitter, s'il y a des gens qui sont encore sur cette plateforme, et sinon sur NipTech, qu'on faisait religieusement toutes les semaines pendant un temps, mais là, c'est vrai qu'il y a un peu plus de boulot, un peu plus de choses, donc on est plutôt sur chaque deux semaines. Mais en tout cas, niptech.com, voilà, pour aussi d'autres sujets tech. On a toujours des angles assez différents, donc c'est toujours un plaisir. Les deux émissions sont bien complémentaires.
Tout à fait. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et toutes les autres que je produis sur frenchspin.fr. Le lien est dans les notes de l'émission. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, pour ceux qui soutiennent l'émission au niveau archive, vous pouvez aller voir justement toutes ces histoires supplémentaires qui sont dans les notes. Vous avez tous les liens, vous avez une sorte de résumé de tout ce qui était important dans l'actu tech et même tout ce dont on a parlé. Vous pouvez avoir accès à ça si vous êtes soutien au niveau correspondant. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous! Salut à tous, un petit supplément à l'émission pour vous parler d'un truc pas très drôle et puis de l'émission elle-même. Alors d'abord le truc pas très drôle, mon père est décédé il y a quelques jours, des suites d'une longue et douloureuse maladie, et donc voilà, je voulais vous en parler un tout petit peu, c'est quand même très personnel, mais je voulais l'évoquer pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vais devoir ralentir un petit peu la production des podcasts pendant quelques jours, peut-être 10 jours, quelque chose comme ça. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas d'upload ou de positron dans les jours à venir, ce genre de choses. Parce qu'il y a évidemment, comme vous en doutez, beaucoup de choses à gérer. Et c'est vrai que ce genre de choses n'est jamais facile. Mais il y a eu quelques mois où c'était très compliqué. J'espère que vous l'avez pas trop ressenti dans les productions de l'émission, mais c'est vrai que c'était très très dur de mon côté. Et puis je voulais vous dire aussi que c'était vraiment un bonheur d'avoir cette communauté autour des émissions. Certains d'entre vous étaient au courant que les choses se passaient comme ça de manière compliquée ces derniers mois. Et j'avais vraiment ce petit coin d'internet bienveillant et je le dis souvent, la communauté de l'émission et des podcasts en général est très est vraiment différente de ce qu'on peut trouver sur internet, et parfois c'est juste un constat comme ça un peu froid, et puis parfois ça a des conséquences réelles. Et là, le fait de savoir que je pouvais avoir un petit endroit où je pouvais m'échapper un petit peu de temps en temps et puis trouver des gens sympas avec qui discuter d'autres choses, se changer un petit peu la tête, c'était salvateur pour moi. Donc même si vous ne le saviez pas, le fait d'aller sur Twitter, sur Facebook, dans les commentaires, ça m'a quand même
Ça m'a quand même beaucoup aidé à traverser ces moments très difficiles, donc je voulais l'évoquer parce que on a quand même vécu tellement de choses ensemble depuis les tout débuts avec les gens qui écoutaient Azeroth.fr et puis l'évolution des émissions, la création du Rendez-vous Tech, l'aventure No Watch, le boulot, les boulots par lesquels je suis passé, mes fiançailles, mon mariage, tout ça, vous avez un petit peu partagé toutes ces choses que j'ai vécues, donc voilà, même les moments pas très drôles. Je voulais vous en parler un tout petit peu aussi, et puis effectivement pour vous dire que les choses vont être un petit peu ralenties dans les jours à venir, j'espère que vous m'en excuserez. Donc ça c'était pour le truc pas très drôle, et puis je voulais aussi vous parler de la chose qu'on a évoquée avec Ben en fin d'émission, qui est les discussions qu'on avait absolument passionnantes sur le Slack, notamment des Patriotes, mais aussi dans les commentaires des émissions, sur Twitter, il y a pas mal de gens qui ont exprimé le fait qu'ils trouvaient que l'émission s'éloignait un petit peu de la tech stricto sensu, et que c'est vrai, j'en suis tout à fait conscient, on parlait beaucoup, beaucoup de sujets de politique, alors toujours liés à la tech, bien sûr, hein, c'est quand même le sujet de l'émission, mais de politique, les réseaux sociaux, l'influence que ça peut avoir sur la société, même avec des trucs comme Uber, qui sont éminemment des sujets éminemment tech, mais qui ont quand même des conséquences qui vont au-delà de la tech. Et c'est vrai qu'on y a fait quand même, on leur a fait une place importante dans l'émission, enfin, c'est moi qui suis responsable du truc. Donc, je pense que c'était vraiment important de le faire, je suis pas du tout en train de dire qu'il aurait pas fallu. Je crois que évidemment la tech touche énormément de choses et notamment ces sujets-là et que c'est finalement les trucs les plus importants dans l'univers de la tech et quand ils sont d'actualité, et il faut en parler. Mais je crois aussi que il est temps maintenant de revenir à un petit peu d'équilibre avec les sujets un petit peu plus tech, que ça soit alors le Rendez-vous Tech, vous le savez, c'est une émission quand même générale, c'est pas une émission où on va détailler l'architecture du dernier processeur d'Intel et combien de cœurs elle a et combien la gravure plus ou moins fine, ce que ça va. Alors on l'évoque bien sûr, mais l'idée n'est pas de transformer tout à coup l'émission en un truc hyper pointu qui va parler qu'aux techniciens, mais par contre... je pense que effectivement cet équilibre est important à ramener parce qu'on a parlé de tous ces sujets et je pense qu'il faut revenir vers quelque chose d'un petit peu plus, j'aurais même tendance à dire léger, même si c'est pas un terme péjoratif, et ça veut pas dire qu'on va arrêter de parler des autres sujets, hein, pas du tout, moi c'est des sujets qui me paraissent importants et qu'il faut évoquer, mais au niveau éditorial, je crois que moi je vais essayer d'être un petit peu plus équilibré. Parce que je crois que les critiques, ou en tout cas les remarques qu'on me fait sont justifiées, c'est un truc que je sentais un petit peu aussi, et comme toujours, vous le savez, dans cette communauté, votre voix est quelque chose d'important et que je prends toujours en compte dans la conception de l'émission, qui évolue depuis ses débuts, ça fait maintenant, je sais pas, 8 ans, depuis 2009, qu'on fait l'émission, et elle a évolué au cours des années, et c'était à chaque fois avec les retours de la communauté pour essayer de trouver le ton juste, l'équilibre entre sujet spécialisé, sujet généraliste, analyse et vulgarisation, etc. Donc là encore, il va y avoir un petit recalibrage, on va dire. Alors sur cet épisode, évidemment, on a parlé de trucs de sujets faciles avec le Galaxy S8 et ce genre de choses. Donc peut-être qu'on l'a ressenti un petit peu, mais il y aura on va voir comment ça va se passer, mais un choix éditorial et un équilibre éditorial un petit peu encore qui va un petit peu évoluer à l'avenir. Donc j'espère que l'émission continuera à vous plaire et j'évoquais les discussions et j'avais fait un tweet avec un sondage sur ces sujets et les gens sont quand même, je pense, assez satisfaits de la teneur de l'émission, hein. On n'est pas en train de dire que les gens étaient pas du tout contents, je crois pas d'ailleurs parce que la plupart des gens pensent que ces sujets sont importants à traiter, Mais oui, donc voilà, on les a traités quand ils étaient là. Je pense qu'ils vont continuer à être là, mais si les sujets occupent une immense partie de l'actualité sur les 10 prochaines années, bah, je veux pas non plus que le Rendez-vous Tech devienne une émission qui traite uniquement de quelle loi on va voter pour gérer Uber ou Airbnb, la surveillance de masse uniquement, etc. Vous vous en doutez, bah, je l'ai dit 12 fois, mais c'est des sujets importants, donc on va pas les évacuer. Mais je veux pas que l'émission ne fasse que ça, sur les 10 années à venir. Donc voilà, c'est la réflexion que je me suis fait avec votre aide, évidemment. Je suis très curieux de savoir si vous avez écouté jusqu'ici ce que vous pensez de cette réflexion, si vous pensez que c'est justifié ou pas, comment vous voyez évoluer l'émission. Et puis, bah, continuez à me faire tous ces retours, continuez les discussions et continuez à faire vivre la communauté qui, encore une fois, est incroyablement positive dans un univers de l'Internet, du monde du cybernaute, où souvent on a beaucoup de négativité. Et donc, continuez à faire de cette communauté quelque chose d'exceptionnel sur Internet. Et puis avant de vous quitter, je vous encourage encore une fois, non, je ne l'ai pas dit, mais je vous encourage donc à dire aux gens auxquels vous tenez, que vous tenez à eux. Je sais que c'est un cliché, hein, on le dit souvent et surtout dans ces moments, mais il n'empêche que c'est vrai. Donc voilà, passez un petit coup de fil, faites un petit bisou et faites en sorte que la vie soit aussi belle que possible. Et ben justement, sur ce principe, moi, je vous fais plein de petits et de gros bisous. Je vous remercie encore de votre présence et de votre soutien à tous les sens du terme, qu'il soit financier ou autre, parce que tout compte. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode dans une 15aine de jours. Ciao à tous.